Allez, attaquons.
C'est parti.
Les frais de notaire, création de la SCI sont en principe réglés en charge, je suis d'accord, ça crée un déficit, c'est vrai. Est-ce qu'on peut les obliger au bilan? À mon avis, non. Non, c'est clair, il faut poser la question au comptable, mais à mon sens, non, c'est pas
Si,
les.
normalement, il y a une petite ligne frais d'établissement, je crois.
Voilà, moi
Et
c'était ma
alors?
question.
C'est
C'était
ça.
ça.
Et normalement, les frais de constitution vont dans ces frais
Oui, mais les frais
d'établissement.
d'achat.
Ah oui, frais d'achat, excusez-moi,
Les frais de
c'est vrai
constitution,
que
je suis
j'ai une
entièrement
blague
d'accord.
là. Oui, frais
Et
de
pour moi, c'est les frais
constitution,
d'achat,
voilà.
parce que les frais de constitution ne sont pas très élevés, si vous
Ah ouais,
voulez,
c'est genre
pour
2 000,
Marceau, c'est rien du tout.
voilà.
C'est les frais
Les
d'achat,
frais d'achat, c'est
les frais
50 000
d'achat,
euros,
à mon
quoi.
avis, non,
Non.
voilà, parce qu'il
Oui,
y a un
non.
impôt qui est lourd dedans.
Excuse-moi.
Voilà,
Voilà.
on est d'accord, alors.
Voilà.
À mon avis,
On
non,
vérifiera
c'est
ça
pas,
avec eux.
ils sont pas inscrits, enfin inscrits, on ne peut pas les immobiliser,
Ouais,
pour
parce
le
que du
moment.
coup, nous, on part avec un déficit de 56 000
C'est
euros
vrai.
sans avoir rien fait, quoi.
C'est vrai.
Et voilà, ok.
Un ressortissant étranger, italien, peut-il attester de la SCI? Aucun problème.
Est-ce qu'il y a des choses très spécifiques à fournir?
Non, à
Non.
part sa carte
Ouais,
de résident quand il signe, parce que comme n'importe qui doit la présenter, c'est tout.
on a une carte de
On n'a
résident
pas.
quand on est étranger, hein?
Oui,
J'en ai
d'accord.
jamais eu, moi, en Angleterre. Ouais.
Mais en France, oui.
D'accord. En France,
Quand
on a
vous
ça.
habitez en
D'accord.
France, alors comme ça vous soyez résident en France, hein, effectivement vous avez une carte de résident.
Oui, bah c'est les futurs entrants potentiels, un couple qui
Oui.
compris son
Aucun.
bien et qui. Donc elle est italienne.
Aucun problème. La seule particularité, mais ne vous concerne absolument pas, c'est quand j'ai le siège d'une société qui est domiciliée à l'étranger, la société est tenue chaque année de présenter ses comptes, si vous voulez, et de déclarer qui sont ses associés. Si elle ne le fait pas, elle paye une taxe de 3% sur son
Oui, je me souviens,
actif.
ça
Voilà,
c'était à
on
la
avait
fin
évoqué.
de.
Voilà. Mais ça ne concerne que les sociétés dont le siège est à l'étranger, pas celles dont un associé est ressortissant étranger, ce qui n'a strictement rien à voir. Voilà. Donc ça, de ce point de vue-là, pas de souci. Doit-on modifier les statuts lors de l'entrée et sortie d'un associé? Dans le principe, oui, pour la simple raison que chaque associé étant responsable à proportion de sa participation au capital, il est tenu solidairement du passif. Normalement, les statuts sont mis à jour après la cession à chaque associé. D'accord? C'est prévu dans la négociation à la fin. D'ailleurs, en général, on prévoit une mise à jour des statuts en disant voilà, le capital qui autrefois était réparti entre Dupont, Durand, Fay, etc., est aujourd'hui réparti entre un tel, un tel, un tel.
Bah
Oui,
oui,
c'est
vous êtes
vrai.
loin.
Ça te dérange pas ce que je dis pour l'instant, ça va? Merci d'avoir
Oui, vous
Excuse-moi,
surveillez.
je vous interromps.
Et du
Oui,
coup,
vous me surveillez.
faut qu'on repasse par un
Normalement, non,
notaire
pas
et tout
forcément un
ça,
notaire,
non?
vous pouvez faire ça sous
C'est
un
un
privé,
privé.
hein, ça pose pas de souci. Après, tout
Mais il faut
dépend de la
qu'on publie.
complication. Alors, le publier, c'est pas exact. Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas obligé de faire une insertion, par contre, dans les journaux.
Pour la session, non.
Non. Vous êtes uniquement obligé de me faire une mise à jour des statuts, mais vous le faites avec vos statuts à vous, si vous voulez. Et puis, vous les
Il y a une
mettez à jour.
modification du
Voilà.
cabis quand même, mais
Oui,
donc il y
donc
a un coût au greffe, mais pas de
ouais, donc
Voilà.
faut quand même qu'on dépose les nouveaux statuts au
Au
greffe.
greffe.
D'accord.
D'accord.
C'est allégé, si vous voulez, comme c'est un peu
Comme
comme.
procédure.
Après, il y aura
Ok.
une publicité que dans le cas finalement vous concernant si on change le montant du capital social,
Ou le
c'est pour
gérant.
une augmentation, ou le gérant, ou le siège. Voilà. À peu
D'accord.
près les trois cas dans lesquels vous aurez à chaque fois une publicité avant.
Une publication au niveau du cabis, et c'est quoi au niveau des frais? Ça revient à peu
C'est
près.
200 euros. Ouais.
D'accord. Ok.
Et la
204,3.
modification des statuts, je vais dire, vous la faites tout seul, quoi, pratiquement. C'est dire, voilà, on
Oui.
remplace l'article temps, je sais
Oui,
n'importe
non,
quoi,
c'est pas
l'article 7 du
compliqué.
capital, il est remplacé. Ancien texte, nouveau texte, c'est vite fait, hein.
D'accord. Ok.
Un couple occupant le même appartement peut-il se répartir les apports en compte courant autrement que 50-50? Je n'y vois strictement aucune objection. Aucun problème. Enfin, pour moi, encore une fois, il faut distinguer deux choses. L'occupation que vous générez avec votre règlement intérieur ou pas, ou vos conventions internes, sont une chose. Le compte courant d'un associé, c'en est une autre qui n'a strictement rien à voir. On peut très bien avoir des gens qui ont un compte courant, un couple qui occupe un appartement. Il y en a un qui a un compte courant à 90 et l'autre à 10. Je caricature, mais c'est tout à fait disjoint. Ça n'a strictement rien à voir. Encore une fois, l'occupation, c'est vous qui la réglez dans le cadre de vos conventions, de vos loyers, de ce que vous voulez. Le compte courant, c'est un prêt qui est fait par quelqu'un, un associé à la SCI. Et qui n'a strictement rien à voir, ni avec sa participation au capital, puisqu'on n'a pas lié, je crois, ni avec son occupation, sauf si vous l'avez prévu dans votre règlement intérieur. Mais moi, au niveau juridique, j'ai
Objection.
aucun lien entre les deux.
Après, il faut juste faire attention sur le régime matrimonial des époux, parce que je crois qu'il y a des personnes qui sont mariées de la communauté, donc par principe, les fonds sont quand même communs. Alors, si par exemple quelqu'un apporte en compte courant une somme qu'elle a reçue ou qu'il a reçue d'une donation ou autre et qui conserve le caractère propre, peut-être bien le constater également dans
Le
la
dire.
convention de compte courant que c'est en remploi de fonds propres pour bien garder la preuve de cette origine propre. Après, c'est que si c'est des deniers communs, leurs revenus, par exemple, leurs gains et salaires, ça reste des biens communs, donc après, bon, t'as pas l'intérêt d'avoir un
Oui,
compte
parce que
courant.
dans le régime de communauté, tout ce que vous gagnez, tout le produit de votre activité pendant le mariage, tout ce que vous achetez pendant le mariage est commun. Il ne reste personnel ou propre que ce que vous aviez avant de vous marier et ce que vous recevez par succession ou donation. Et un époux peut parfois avoir intérêt à se préserver la preuve, si vous voulez, du fait que l'argent qu'il dépose là n'est pas de l'argent commun, comme c'est présumé être le cas, mais de l'argent personnel.
D'accord.
De fait, voilà.
Mm-hmm.
D'accord.
D'accord.
Mais donc, éventuellement, l'indiquer si c'est le cas. Mais si c'est le, si c'est pas le cas, si c'est des fonds que les gens ont gagnés pendant leur mariage, si vous voulez, mm-hmm. peu importe lequel fait le dépôt en compte courant, la créance contre la société appartiendra à la communauté des deux époux, même si c'est fait par un seul des deux. C'est une particularité de la communauté. D'accord.
D'accord. Mais dans le cadre de là, moi je parlais de. Enfin, ça m'intéresse aussi de savoir ça. Mais le couple auquel on pense, dont l'italienne, ouais. ils ne sont pas mariés en fait. Et donc, comme lui, il a plus de fonds qu'elle, il est prêt à mettre les trois quarts et puis elle un quart. Voilà.
Aucun problème. On vous
présente entre eux,
voilà. Pour être très pointu, si vous voulez, effectivement, ouais. Quelquefois, le régime matrimonial a une incidence. Je crois que dans les questions d'après, il y a un point qui me l'avait révoqué d'ailleurs. Donc, on y reviendra sûrement un peu par rapport aux différents régimes. D'accord.
Ok.
C'est clair là-dessus, après, ouais. Pas de souci.
Oui.
Réévaluation périodique du bien, impact sur la valeur des parts sociales. Alors, quelle est la valeur de base avant réévaluation? Pour moi, là, il faut, pareil, il faut distinguer le bilan, qui est effectivement dans lequel le bien figure pour sa valeur d'acquisition, si vous voulez, de la valeur réelle de la société, d'où découle la valeur réelle des parts sociales. D'accord. La valeur bilan, c'est toujours la valeur pour laquelle vous avez rentré le bien à l'achat. Vous l'avez acheté 835 000, c'est 836 000 et ça restera 835 000 jusqu'au jour où vous allez le vendre. Par contre, la valeur réelle de la société et donc la valeur réelle des parts, là, elle a un peu à voir avec ça, mais elles sont disjointes au fur et à mesure que le temps passe. Pour quelle raison? Parce que la valeur réel de la société, c'est relativement simple dans son principe, c'est l'actif moins le passif, mais c'est l'actif réel moins le passif. Alors autant le passif constaté au bilan correspond très exactement en général au passif réel de la société, autant l'actif constaté au bilan ne correspond rarement à l'actif réel de la société, parce que le bien immobilier, en général, par définition, a une valeur qui évolue et qui évolue à la hausse. Donc, en clair, votre valeur de société, c'est l'actif réel, donc la valeur de l'actif immobilier, moins le passif qui est généralement celui que vous avez au bilan. Parce que là, par contre, on est assez juste, si vous voulez, au bilan, entre le capital restant dû sur le prêt, le montant des comptes courants, le montant des impôts qui ont pu être provisionnés, on peut être assez exact. Mais par contre, sur l'actif, l'actif n'est pas réévalué au bilan régulièrement. Mais vous, par contre, alors je sais qu'il y a des sociétés où ça se fait, vous pouvez très bien prévoir au titre d'un règlement intérieur ou d'une réunion annuelle de convenir chaque année à l'avance, quelque part, de la valorisation du bien, de façon à fixer indirectement, qu'on le veuille ou non, la valeur de la société et la valeur de la part pour l'année. D'accord. Et cette réévaluation, elle est libre, elle est à votre convenance, elle est en fonction du marché. Vous pouvez la faire par n'importe qui, un expert immobilier, un agent immobilier, un notaire s'il est compétent sur Saint-Romain, ce qui n'est pas forcément gagné. Voilà. Et puis vous, en fonction de ce que vous connaissez du marché. Le bon coin peut être un très bon indice de prix de vente autour. Ouais, enfin, j'ai caricature à peine, si vous voulez. Mais en clair, vous pouvez très bien presque convenir à l'avance chaque année de la valorisation qui sera retenue pour les actes de l'année à venir, si vous pensez qu'il y a pas mal. Effectivement, ça vous donne un ordre d'idée. Ça peut être... Moi, j'ai vu que ça se faisait. Mais encore une fois, c'est une règle interne de simplification de... et que tout le monde n'est pas obligé d'accepter. Le problème réel va se poser lorsque vous allez céder des parts et que vous allez avoir potentiellement, je ne dis pas de façon certaine, mais peut-être un conflit entre celui qui cède et qui estime que le bien vaut plus et celui qui rentre et qui estime que le bien vaut moins. D'accord. C'est là que le litige peut effectivement survenir et qu'une estimation impartiale par un tiers peut être nécessaire. Mais tant que vous n'avez pas ça, et tant que les parties sont d'accord, ils peuvent se mettre d'accord aussi. D'accord. Alors, je pense qu'on va être dans les quelques mois et peut-être les premières années qui viennent sur une limitation des hausses de l'immobilier. Et on va certainement croître de façon moins importante que cela n'a cru par le passé. Mais je ne peux pas vous le garantir, si vous voulez, vous êtes quand même sur le bon côté de Lyon, si je puis dire, sur l'ouest lyonnais. Et puis, c'est très paradoxal, mais il y a des mesures fiscales souhaitées par le gouvernement pour lutter contre l'inflation, qui ont exactement l'effet inverse de ce qu'ils veulent. La réforme de la plus-value qu'ils avaient envisagée l'année dernière sur les terrains à bâtir, qui consistait à taxer tous les terrains à bâtir, quelle que soit leur durée de détention, à l'impôt sur la plus-value, en partant du principe que si les gens étaient taxés, quelle que soit la durée de détention, les gens vendraient sans aucun problème, sauf que je ne sais pas où ils sont allés prendre ça. Il suffit d'interroger les premières personnes dans la rue. La première question de tout le monde, c'est de dire non, je bloque la vente, je ne vends plus, et j'attends que les changements fiscaux reviennent à des choses plus logiques, si vous voulez. Ouais. Donc, conséquence, mais c'est curieux, et je parle de ce gouvernement et le gouvernement d'avant, le même raisonnement, c'est très étonnant, alors que vous interrogez n'importe qui, n'importe quel français, n'importe quel particulier, le premier réflexe, c'est de dire si on m'impose sur la plus-value alors que je ne l'étais pas, le premier réflexe, c'est que je vais bloquer, j'attends que ça change. Et ça changera inévitablement, ça change 4 fois par an, donc ça changera. Donc c'est très curieux, et du coup la conséquence de ça, c'était de dire le terrain devenait rare, parce qu'il n'y aurait plus eu de vente, devenant rare, ça en renchérissait le coût, et ça renchérissait le coût de l'immobilier, exactement l'inverse de ce qu'on voulait faire. J'arrive pas à comprendre où ils ont été, enfin, où ils ont vécu ces gens-là. Je parle pour tous les gouvernements, peu importe, c'est les technocrates, je n'arrive pas à comprendre où ils ont été. Voilà, donc est-ce que c'est une digression, mais effectivement, tout ça pour vous dire qu'effectivement, la valeur, l'évolution de votre bien dépend de l'évolution du marché global de l'immobilier. C'est un constat, c'est un fait. Et la vraie valeur de votre bien, c'est son prix de vente. Il n'y en a pas d'autre, si vous voulez. Et tant que vous ne l'aurez pas vendu, vous ne serez pas certain de sa valeur. On est bien d'accord. Ouais.
Mais je pense que la question se pose plus précisément parce qu'on fait énormément de travaux de rénovation. Donc on part d'un bien qui est habité par une seule famille, qui est dans un grand luxe, à un bien où il y aura quand même cette famille et des parties communes. Donc par l'argent que nous on met dans les travaux et notre temps aussi,
et ça valorise le bien aussi.
On pense que ça valorise le bien. Et du coup, je pense qu'il y a ça vient d'un certain nombre de gens dans le groupe qui ont besoin d'être rassurés sur le fait que le jour où ils partiront, c'est pas le but de faire une plus-value immobilière sur l'évolution de l'immobilier. Même si l'immobilier baisse de 5% par an, notre bien sera quand même revalorisé puisqu'on aura fait des travaux. Voilà. Mais que ces gens-là, ils retrouvent quelque chose, parce qu'en fait, il y a une problématique de certaines personnes qui aimeraient être compensées en quelque sorte pour leur temps qui passe dans les travaux. Et nous, on n'est pas prêts, en tant que gérant, à faire des fiches de paye, à payer l'URSSAF, etc. Enfin, c'est débile. Et donc, on essaie de montrer à peu près, de faire des simulations pour dire, le jour où tu pars, voilà à peu près ce qu'on pense sera la valeur de la maison par rapport aux travaux, et après faire des hypothèses sur le marché.
Votre raisonnement est bon.
Et du coup, aujourd'hui, tu as 50 euros de part. Demain, peut-être que quand tu partiras, et peut-être que même si on augmente les parts de chacun, ce qui est une hypothèse qu'on regarde, tout en gardant l'association majoritaire, si au lieu de 50 parts, on avait 100 ou 150 parts chacun, du coup, est-ce qu'on encaisserait 5 000, 10 000 euros au bout de 5 ans, qui permettrait de dire aux gens, au moins, tu n'auras rien maintenant, mais le jour où tu partiras, tu auras cette compensation-là qui seront payées par les nouveaux arrivants, en fait.
Tout à fait. Mais votre
je veux savoir si ça se tient.
Ça se tient complètement, c'est exactement ça. En fait, la valeur du bien dont je vous parle n'est pas que la valeur du bien dans l'état où vous l'avez acheté, c'est la valeur du bien à laquelle vous pourriez le vendre à l'instant T, où on parle de l'évaluation, si vous voulez. Donc, ça intègre vos travaux. Alors, juste deux petites réserves, mais ça, je pense que vous l'imaginez bien. Le surcoût ou la plus-value apportée à l'appartement n'est pas identique au coût des travaux dépensés. Vous pouvez mettre 500 000 euros de travaux et n'apporter que 200 000 euros de plus-value, et à l'inverse, les 500 000 euros de travaux que vous faites peuvent apporter 700 000 de plus-value, si vous voulez. C'est pas mathématique, c'est vraiment la valorisation du bien en fonction du marché et de la clientèle qui est prête à vous acheter le bien dans l'état où vous l'aurez mis. C'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que on parlait par exemple de quelqu'un qui faisait un aménagement luxueux de son appartement et quelqu'un qui à côté fait un aménagement plus modeste, ça va être lissé tout ça. C'est-à-dire que celui qui aménage de façon plus luxueuse, ça va apporter globalement à l'ensemble du bien une plus-value que n'apportera pas l'aménagement plus modeste, mais ça va. Celui qui en bénéficiera, c'est pas celui qui va avoir fait l'aménagement luxueux, c'est tout le monde.
Oui.
On est d'accord ? Au même titre que le modeste, c'est pas péjoratif ce que je dis là, mais va pénaliser l'évolution de tout le monde. C'est pas un jugement de valeur, mais c'est pour vous dire effectivement comment ça fonctionne. Comme globalement, on l'a évoqué depuis le début, on est en SCI, on n'est pas chacun avec un lot qui nous appartient et qu'on revend. On a un bâtiment global. Si vous aménagez un appartement beaucoup mieux que les autres, ça donne une valeur globale à l'appartement, pas seulement aux parts de celui qui occupe cet appartement, qui en sont totalement disjointes. D'accord.
Je pense que c'est important de préciser.
Mais quelque part, ça correspond, je pense, à la philosophie qui est la
vôtre.
Mais bien sûr,
hein.
Et ça explique aussi pourquoi celui qui travaille dans le bien, si vous voulez, bénéficie de la plus-value qui a été apportée par tout le monde, de la même façon. Mm-hmm. D'accord.
Mais ça risque quand même de poser un problème sur un point où on a décidé, donc effectivement, on n'est pas du tout dans l'idée de faire des choses luxueuses, etc. Mais qu'on, au niveau de notre budget, on fixe un budget moyen, par exemple, ben voilà, pour faire du parquet, tu as une enveloppe de temps, etc. Et si, on a décidé que si quelqu'un voulait aller au-delà, c'était lui qui payait ça.
Oui.
Et donc en fait, il va aller au-delà, c'est lui qui va payer ça, mais c'est quand même
c'est la collectivité qui va
en bénéficier, mais il les récupérera indirectement, partiellement, le jour où il vendra ses parts.
Partiellement,
oui. Mais partiellement.
À hauteur de sa quotité.
Voilà.
S'il a 5% des parts.
Après, c'est un choix de vie aussi.
Bah, voilà. C'est dire, voilà, j'investis dans une belle cuisine parce que je veux en profiter, à la limite, je peux repartir avec.
Ça me choque pas, moi, sur la philosophie de la fête. Sur la philosophie de ce que je pense, de ce que je pense, vous connaissez, quoi. Voilà.
Alors, par contre, du coup, comment est-ce qu'on fait cette réévaluation? Enfin, pas comment est-ce qu'on fait la réévaluation du bien, je suis claire là-dessus, mais après, comment est-ce qu'on se calcule la valeur de la société? On doit. Parce que nous, on va être chroniquement déficitaire, donc ça, c'est des trucs qu'il faut croire avec des comptables, etc. Mais typiquement, puisqu'on n'a aucun revenu, enfin, on a les charges qui se compensent et c'est tout, quoi. Donc, ça veut dire qu'en principe, si je dis, bon, bah, la valeur du bien ou de mon actif avec le bien réévalué, c'est, je dis n'importe quoi, 1 million, et que j'ai un déficit de 100 000 euros à purer des dernières années, finalement, la valeur de ma société, c'est j'enlève mon déficit et mes dettes. Voilà. On est d'accord.
Voilà,
on enlève toutes les dettes.
Le déficit, c'est autre chose. Un déficit, c'est le résultat de l'exercice en cours.
Oui, alors d'accord. Je veux dire les réserves de déficit accumulés, ou
voilà.
Si on a plusieurs.
Si vous alors après, il faut voir, parce que normalement, vous savez, on en avait évoqué plusieurs fois, mais la SCI est transparente fiscalement.
Ouais.
Donc la SCI elle-même fait un déficit, mais qu'elle reporte sur ses associés. Donc là, il faudra voir avec votre comptable, parce que je ne suis pas super doué forcément dans l'impôt sur le revenu, mais normalement, chacun de vous peut reporter dans sa déclaration d'impôt sur le revenu le déficit qu'il génère sur la société. Il faut voir dans quelle mesure ça peut s'imputer éventuellement sur vos autres revenus. Je ne suis pas certain du tout que ça peut se déduire de vos autres revenus, mais il faut poser la question à l'expert comptable quand même au niveau de l'impôt sur le revenu.
Okay.
D'accord.
Oui, ça c'est une question supplémentaire.
Parce que si ça pouvait se reporter, je sais qu'il y a des cas où le déficit foncier peut se reporter.
Oui, j'ai lu ça, jusqu'à 10 000 euros chacun.
Voilà.
Mais le souci, c'est que ça veut dire que ces 10 000 euros, il faut que tu les aies payés à la SCI. Quoi. Donc ça veut dire, par exemple, les fameux frais de notaire, on ne vous en veut pas, hein, les 56 000 euros là, qu'on a en déficit, on les aura payés deux fois.
Vous avez payé à l'État quand même.
Ouais, oui. On n'en veut pas à l'État non plus, on aime l'État. Mais
non, en fait, quand j'ai l'État, c'est pas vrai. C'est
ça veut dire qu'au final, on les aura payés deux fois. On les a repayés le jour de la vente. Et là, comme ils sont en déficit, si on veut apurer ce déficit, on devra les repayer.
Oui, sauf que vous n'êtes pas obligé de l'apurer, le déficit.
Voilà, c'est ça.
Parce que vous, quelque part, vous l'avez déjà réglé. Vous l'avez déjà réglé avec les comptes courants que vous avez dû mettre en plus avec le prêt. Donc actuellement, vous n'avez pas de déficit, si vous voulez, puisque vous l'avez payé.
Comptablement, si. Mais voilà.
Non, parce que vous avez dû le financer avec quelque chose. Vous avez mis des comptes courants dedans.
Oui, mais les comptes courants, c'est au bilan. Et
les comptes courants sont au bilan, c'est une somme que l'on vous doit à vous.
Oui.
D'accord, que la société vous doit.
Oui, mais dans mes charges et mes produits, j'ai que des charges. Donc au bilan, je suis à moi, 56 000.
Oui.
Au compte de résultat.
Oui, mais ça, vous l'avez financé. Vous ne payez pas deux fois, ça que je veux dire.
D'accord, bon,
vous
c'est
vous
ça
payez
qu'il faut
une
qu'on
fois,
comprenne.
C'est vrai. Parce que quand vous avez un déficit d'activité, c'est en fait la première année que vous en avez essentiellement, et puis après, pour les travaux, vous allez faire. Mais en réalité, ce déficit, il correspond à l'argent que la société a emprunté à certains de ses associés et qu'elle a injecté dans l'opération. Donc l'argent que vous avez mis par le biais de vos comptes courants, vous l'avez mis dans la société, vous l'avez avancé à la société qui vous le rendra un jour ou le jour où vous vendrez vos parts. D'accord ? Mais vous n'allez pas le payer deux fois en quelque
d'accord,
sorte. Par contre, ce qu'il faut éventuellement regarder, c'est si ce déficit foncier est éventuellement reportable sur votre impôt sur le revenu. J'en suis pas certain, sincèrement, parce que comme vous n'avez pas de revenu, ça ne me semble pas gagné. Voilà. Ça serait trop facile de créer un déficit artificiel pour ignorer ses impôts, si vous voulez. Donc, vous voyez le cas comptable, sincèrement, j'en suis pas tout à fait sûr. Vous vouliez parler, Marjorie, excusez-moi.
Non, c'est bon.
Ça a été évoqué, parce que vous entendez manifester votre souhait de prendre la parole.
De toute façon, ce serait qu'à proportion de nos parts, j'imagine. Oui. Et donc, comme on a 1% de parts, ce serait
j'allais
rien du tout.
J'allais y venir, si vous voulez. L'essentiel du déficit,
tout.
Il est sur l'association, si vous voulez.
Ouais.
Donc, voilà.
Okay.
Ça n'aura pas une grosse incidence. Alors, attendez, je vais juste repointer donc, tout ce que le point 6, valeur des bases en réévaluation, donc ça, on l'a évoqué. Qui doit faire l'évaluation? N'importe qui. quelle valeur prendre, si variance importante, quelle évaluation, ben ça c'est à vous, c'est au mieux. Oui. Encore une fois, la seule évaluation exacte, c'est le prix du marché. Si vous
oui.
Avez,
oui, donc tant qu'on n'a pas vendu.
Tant que vous n'avez pas vendu, vous avez une évaluation qui est une évaluation. Hein.
Voilà. Oui, ça va.
Quand doit-on peut-on procéder à cette évaluation ponctuellement? Moi, je vous recommanderais, j'allais dire peut-être pour la, comme je disais, pour le côté paisible de la chose, de fixer en début d'année une valeur, si vous voulez, à l'immobilier, de laquelle va découler la valeur de la société et d'où va découler la valeur des parts. Comme ça, l'arrêt du jeu, elle est fixée. Encore une fois,
c'est l'AG annuel, oui, tout ça.
Ce n'est qu'une, c'est une règle de fonctionnement que je vous recommande pour des raisons de paisibilité de l'affaire, donc voilà la règle qui est déposée, mais elle n'est pas opposable à tout le monde. C'est-à-dire que si quelqu'un la discute, ça peut se discuter, hein, c'est vraiment.
On dit, voilà. Ça donne au moins un prix indicatif si on a des nouveaux entrants, des nouveaux sortants.
Tout à fait, on sait de quoi on parle.
Ouais, voilà. C'est bien.
Par contre, ça vous nécessite peut-être 2-3 jours, enfin 2-3 jours d'études, de recherche, on verra combien pourrait se vendre le bien, oui, effectivement. Mm-hmm. Voilà. Lors d'une réévaluation, comment calculer la valeur réelle d'une part, et ben, vous l'avez compris.
Ça, c'est, je pense que j'ai.
Comment confirmer l'opération comptable en conséquence, augmentation de la valeur du bien actif. Non, voilà.
Ça ne change jamais en fait. Non. C'est juste que
en comptabilité,
on sait virtuellement les parts.
Voilà, en comptabilité, votre actif est toujours faux, et alors que votre passif est relativement exact.
Voilà.
Voilà, on est d'accord.
Juste pour votre calcul, parce que quand vous allez avoir votre actif qui va être ici, donc avec votre bien immobilier, éventuellement des liquidités, imaginons 1 million.
Ouais.
Et vous allez avoir votre passif. Dans le passif, il y a une, on va dire un haut passif, vous avez le capital qui apparaît et là, les dettes.
Oui.
Quand on fait la valorisation de la société, c'est l'actif moins juste le passif réel.
Oui,
pas le capital. Passif, parce que normalement, l'actif et le passif sont égaux. Donc, le total ici sera égal à celui-là.
Okay.
D'accord. Donc, pour connaître votre vraie valorisation, d'une part, c'est vraiment actif moins, mais juste la partie ici.
Le passif réel.
Pas ce qui est en haut avec le capital, etc.
Oui, ça va.
D'accord. Parce que sinon, c'est que nous, on dit toujours actif moins passif.
Oui, je suis d'accord.
J'imagine
c'est vrai,
les clients dans des comptes.
En même temps, alors, le capital était. Il était combien, le capital de la
société ? Nous, c'est 3600.
Il est 3600.
Oui, donc
ça change pas grand-chose.
C'est ce qui me semble.
Très clair, merci.
Alors, la question F. J'avais un peu de soucis par rapport à la compréhension, mais je pense que c'est ce qu'on vient d'aborder. Peut-on choisir d'affecter une partie de la plus-value latente à la résorption du déficit chronique de la SCI ?
Oui, je pense qu'on a répondu. Voilà. Moi, je pensais qu'on pouvait réévaluer le bilan.
Oui, parce que vous êtes chagrin d'avoir un déficit chaque année.
Ça me chagrine. Je ne sais pas pourquoi. Ça me bloque. Parce que j'ai été dans le privé et que c'est pas bien.
Non, moi je suis dans le public.
Faut que quelqu'un me rassure là-dessus parce que ça m'ennuie.
Ça ne veut pas dire que vous perdez de l'argent chaque année, mais ça veut dire qu'effectivement. Alors, encore une fois, il faut bien distinguer la société, le compte de ce qu'on appelle le bilan et ce qu'on appelle le résultat. Le résultat, c'est effectivement l'activité de la société. Comme vous n'avez aucun produit, effectivement, toutes les charges que vous avez sont nécessairement. Crée un déficit systématique, on est bien d'accord, mais ce n'est pas forcément grave. Ce déficit, c'est l'argent que vous mettez, vous, dans la société et qui va être compensé par l'argent que chacun met dans la société. C'est le compte courant qui sert à l'alimenter.
Non, parce que je crois que dans certains types de sociétés, mais j'espère pas une SCI, il fallait pas. Enfin, il y avait des règles qui disaient qu'il ne faut pas dépasser un certain pourcentage du capital social, un certain ratio, en disant que le déficit ne peut pas dépasser ça, sinon il faut recapitaliser. Quoi.
Non, en société commerciale. Commercial, mais parce que le fonctionnement est tout à fait différent.
Donc,
et parce
là, on n'a pas de limite.
Non, il n'est pas normal qu'une société commerciale perde de l'argent, si vous voulez. Mais la SCI, elle ne perdra pas d'argent, en réalité.
Non, parce que le jour où elle revendra.
Non, mais surtout, c'est même pas ça, c'est que chaque année, l'argent que vous mettez, le fameux déficit en question, c'est vous qui l'avez mis. Oui. Donc, quelque part, les comptes courants, c'est votre argent à vous que vous avez investi dedans. Vous comprenez ce que je veux dire?
Et donc,
elle ne vit pas à découvert, en quelque sorte.
Et donc, quand on fait justement ce calcul-là dont vous parliez, on n'enlève pas le déficit à la valeur du bien.
Non,
le déficit
rien ne bouge au bilan, en fait.
Il est compté dans le compte courant, en fait.
Ouais. Voilà, le déficit, vous allez quelque part le compenser par de l'argent. C'est de l'argent que vous avez mis en compte courant, de cette façon. Mm-hmm. Donc déjà, vous augmentez votre passif en augmentant les comptes courants.
Les comptes courants sont ici, par exemple. Oui. Dans cette partie-là, il y aura le montant de le prêt, etc. En fait.
Donc le fait de le déduire, là par contre, ça reviendra à le comptabiliser deux fois.
Voilà, c'est voilà. Voilà.
Parce que le
là,
fait de.
Là, l'immeuble pour sa valorisation réelle, où vous refaites le calcul ici, s'il y a d'autres lignes, et ici, moins le passif réel.
Alors, après,
on divise par nombre de parts.
La question que vous pouvez légitimement vous poser, c'est est-ce qu'il faut passer toutes les dettes en compte courant. J'en suis pas forcément certain. Vous pouvez convenir de faire une dépense collectivement sans forcément la rentrer en compte courant. Je dis n'importe quoi, vous êtes 10, il y a 1000 euros à dépenser, chacun met 100 euros par exemple. C'est pas forcément un compte courant, vous pouvez convenir de le dépenser comme ça sans forcément le comptabiliser comme un prêt à la société. Ça peut être concevable.
Je comprends pas.
Si, ça reviendrait à faire un don.
En fait. Voilà, c'est comme un don.
D'accord. Donc,
le
par exemple,
courant,
la
compensation. Le récupère, c'est un prêt.
Voilà.
Le courant, c'est acté, c'est un prêt, on constate bien qu'on doit, la société doit de l'argent.
Oui, oui.
Là, c'est plus, voilà, on paye pour la société, mais on n'en. Enfin, on ne va pas avoir de remboursement.
Quoi. Oui, il n'y a pas de comptabilité,
ça,
c'est de l'argent.
Voilà, ça
circule
se retrouvera
entre nous,
quelque part dans la valeur, la plus-value apportée au bien, si vous voulez, mais ça ne se comptabilisera pas comme un prêt à la société auquel on a droit, qu'on a droit de reprendre intégralement au centime d'euro
près. D'accord.
Donc, enfin, à vous de gérer ça après, hein, c'est peut-être une petite dépense. Hein.
Ok, donc oui, c'est bon. F, c'est bon. Enfin, c'est pas bon.
On a compris un peu.
On a compris. Une réévaluation. Bah, la question du coût d'une réévaluation, c'est peut-être une réévaluation. Ça coûte chez un notaire de faire évaluer son bien. Si un jour il y a vraiment
une
sortie.
Si il y a quelque chose à faire, c'est pas chez le notaire. En tout cas, ça sera chez le comptable. Parce que s'il y a une réévaluation à faire, c'est une réévaluation de l'actif et c'est une opération uniquement comptable qui consiste à modifier un chiffre au bilan.
Ok. Et sur une évaluation immobilière d'un bien, parce que les notaires.
Ah, sur l'évaluation
immobilière. Ouais.
Non, on le fait toujours gracieusement.
D'accord.
Quand on le fait. Mais par contre, genre là. On connaît bien le marché, moi je connais très bien le marché à Lyon, hein.
Ouais.
Je ne connais qu'à Saint-Romain. À Saint-Germain, si je vends, on a quelques ventes là-bas, si mais on ne connaît pas forcément le marché aussi bien.
Local.
Voilà.
Mmh. D'accord.
De façon aussi fine, si vous voulez.
Mmh.
Et puis c'est toujours pareil, une évaluation, vous savez, ça vaut ce que ça vaut. Hein.
En
général, moi je vous dis, on a un client et ami là, qui doit acheter un appartement sur le KIC, on lui fait une proposition, il nous dit voilà, j'achète grosso modo 120 mètres carrés à 600 000 euros. Ça lui paraît un peu cher. Il dit, ben non, c'est le prix. Ben oui, mais c'est le prix sur le quai.
5 000 euros sur le quai.
Ouais.
Du mètre carré,
Avec vue sur le quai, etc.
Ouais.
Voilà. Un immeuble quatrième avec ascenseur, oui, c'est le prix, c'est la norme. Voilà. Mais effectivement, vous m'auriez demandé avant, je vous aurais dit, c'est à peu près 5 000. Maintenant, peut-être que ça peut se vendre 5 000 2 quand même, ou que ça se vend 4 000. Voilà, c'est pas. Voilà.
Ok, donc la 6, c'est clair.
7, départ d'un associé. Revend-il ses parts à la valeur du bilan? Non. Peut-il les vendre plus cher? Oui. Négociation de valeur arrivant. En fait, le prix de vente, vous l'avez bien compris, c'est la valeur de la part divisée par le nombre de parts.
Ouais.
Donc, en fait, très peu, puisqu'on avait fait un peu volontairement, c'est l'association qui allait faire le départ.
Ouais.
Voilà. Mais effectivement, la valeur réelle de cession, on est d'accord, c'est la valeur réelle de la société, son actif réel moins son passif existant, constaté. Confirmer l'imposition actuelle de la prévue de cession? Alors, non. Environ 30%, oui, pour l'instant c'est 34,5%, ça je suis d'accord. Des cotes de 1/15 par an, non, ça a changé ça. Ça a changé déjà depuis 2009. Aujourd'hui c'est sur 30 ans la décote. Et c'est pas 1/30 par an, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est 2% les premières années, après 4, après 6, après 8. Voilà. Donc la décote totale de la plus-value, c'est au bout de 30 ans. Mais c'est pas 1/30 par an.
Ok.
Pour vous donner un exemple, quelqu'un qui vend au bout de 27 ans, il n'a que 4, il a que 76% de décote. D'accord ? Les premières années ne valent rien du tout, elles valent 2% de durée de détention. Les dernières valent 8%.
D'accord.
D'accord ? Donc en gros, si vous gardez, même si vous gardez 15 ans, je crois qu'on doit avoir 18% de la durée de détention, un truc comme ça. Un peu plus, peut-être, mettons 30, mais pas beaucoup plus.
Ouais, donc c'est plus que ce qu'on pense.
Ah oui, oui, c'est beaucoup plus lourd.
Et ça c'est 34,5 le taux. Hein.
34,5 l'impôt.
Donc la base c'est 34,5,
oui.
Et des côtés.
Dans Chouïa.
La...
Oui, et là-bas, quand on met l'euro, il existe beaucoup, je crois.
Non.
Ah d'accord.
L'expulsion n'était pas applicable pour les
sessions de part. C'est la même.
J'ai trouvé ça sur Internet.
Oui, mais voilà. Mais vous savez, c'est le problème d'Internet, c'est que l'impôt sur la plus-value a changé 4 fois dans le cours de l'année 2011. Il a changé 3 fois dans le cours de l'année 2012 et ce qui était prévu a été retoqué en partie par le Conseil constitutionnel. Donc ce que vous allez voir, vous avez 80% qui est faux. Ou parce que c'est dépassé, ou parce que ça a correspondu à quelque chose qui était juste un jour. Et ça, c'est la première réforme de la plus-value qui date du mois d'août 2011, où effectivement, ils sont passés de 15 ans à 30 ans. Voilà.
Ah, peut-être que ta page web
oui,
est datée.
Ben, mais en plus, vu qu'a priori, sauf si personne ne va revendre avant 5 ans, là, De toute façon, d'ici 5 ans, ça aura complètement changé. Non, mais le jour où
vous demanderez de le voir, on vous dira ce qui est en cours.
Voilà.
Et ce qui est en cours n'est plus vrai 3 mois après.
Exactement. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. C'est à titre indicatif. Voilà. Mais voilà. Faire des plans sur la comète là-dessus, c'est
bien. Encore une fois, en 2011, ça a changé 4 fois dans l'année. Et en 2012, ça a changé 3 fois. Ça devait changer encore une fois plus. Et puis, finalement, le Conseil a retoqué une partie, mais pas tout.
Mais il y aura juste la question qui va se poser avant 5 ans. Parce que, par exemple, là, pour Michael, il rentre, donc c'est l'association qui va lui vendre ses parts.
Oui.
Bon, ça
c'est nouveau,
passe...
le
voilà,
le
c'est le couple Michael et Nathalie. Voilà. Ouais. Donc la cession va se faire donc de l'association vers eux.
Mm-hmm.
Et bon, ce sera un moment où les parts seront encore à 1 euro ou presque, quoi. Donc,
de toute façon, oh bah oui,
sera...
parce que vu qu'on a tout pété, si on faisait réévaluer le bien, il diminuerait. Bon.
Parce que vous avez voilà. dépensé est ouais. supérieur à... Vous oui. n'aurez, ouais. votre association, votre, le, ouais. la SCI n'aura une valeur positive que le jour où vous aurez absorbé les fameux frais de notaire de l'achat, si vous voulez, les fameux 6 et quelques pourcents. Donc quand vous aurez prévu grosso modo 8 ou 10% de valeur, si vous voulez, donc il faut quand même 2-3 ans avant que votre société puisse avoir.
Puis il va finir les travaux. Quoi. Mmh. Enfin,
mais donc là, actuellement, bon.
On le revend à 1 euro.
Oui, mais ça sera des broutilles. Mais donc l'association va être imposée sur sa cession, c'est ça?
Mais sauf que vous ne dégagez pas un.
Ah oui, il n'y aura pas de plus-value.
C'est zéro si on le revend à 1 euro.
D'accord, voilà, il n'y a pas de plus-value.
Il n'y a pas de plus-value taxable, donc vous ne faites pas de bénéfice.
Voilà. Par contre, le jour où, si jamais on a, de nouveaux associés qui achètent de l'asso à un moment donné plus tard et que la société a été réévaluée, là, oui, l'asso va faire une plus-value. Mais bon, c'est pas grave puisqu'elle va faire une plus-value. Ça va, c'est pas grave, ça paye des impôts.
Oui, et on sera, ça suppose une valorisation qui sera déjà devenue importante du bien une fois que vous aurez absorbé les travaux, etc. Et puis encore une fois, on ne parlera que d'un pour cent de ça.
Mm-hmm. Ouais, c'est quand même petit.
D'accord.
Ah, c'est gentil, merci.
Voilà, c'est pour vous dire
ah oui, moins de 6 ans, 0%. Ah oui, ça a bien changé.
C'est jusqu'à partir de 30 ans qu'on a.
Ouais, d'accord. Ouais, bon, on sera plus là.
Okay. Même question sur la valeur de son compte courant. C'est normalement la SCI qui le lui rembourse, mais le nouvel entrant a-t-il un quelconque rôle juridique dans ce départ?
Alors ça, c'est pour la revente, ça, c'est pas pour l'imposition. Évidemment, on se dit bien qu'il n'y a pas d'imposition.
Mais, normalement, c'est la SCI qui le rembourse, mais on pourrait très bien convenir que le compte courant soit remboursé par le nouvel entrant.
Et c'est quand même en faisant un triangle, c'est-à-dire que le nouvel entrant rembourse à la SCI, ce qui permet à la SCI de rembourser le
oui,
sortant.
Oui ou non, c'est-à-dire que si vous convenez qu'effectivement le nouvel entrant rembourse directement le sortant, le nouvel entrant se retrouve titulaire, si vous voulez, du même compte courant dans la société. Okay. Ça revient exactement au même. Mm-hmm. Mais vous avez, ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas nécessairement obligé de faire transiter les fonds par la comptabilité de la SCI, me semble-t-il, vous êtes d'accord avec moi. Vous avez la possibilité, ou le nouvel entrant, c'est généralement ce qui se fait d'ailleurs, rembourse directement le sortant, ce qui évite à la SCI d'avoir à sortir les fonds et à les redemander au nouvel entrant. Et à ce moment-là, vous modifiez simplement dans la comptabilité de la SCI le titulaire du compte courant. Voilà. Première chose, c'est la façon, à mon sens, la plus simple de procéder. Deuxième possibilité, le nouvel entrant reverse le même montant à la SCI et la SCI rembourse au sortant la somme. C'est possible aussi, ça ne pose pas de souci, mais encore une fois, là, comme on est dans le remboursement d'un prêt, on n'est pas du tout sur la taxation d'une cession.
Oui, mais en fait, je pense que ça ne va pas vraiment se présenter comme ça, parce qu'en général, les nouveaux entrants, ce qui est donc un prêt financier, vont donner moins. Si le sortant a déjà versé beaucoup d'argent, mettons 200 000 euros sur son compte courant, au fil des années, le nouvel entrant, on va rarement trouver quelqu'un qui a 200 000 euros en cash à mettre, donc souvent, on va lui demander que genre, 80 000. Donc, de toute façon, ça ne va pas se faire de la main à la main. Mais ce que certains voulaient dire, je pense, dans le groupe, c'était aussi dans l'optique toujours de compenser le temps qu'ils mettaient dans les travaux. Donc, il y avait d'une part les cessions de parts où ils pouvaient se faire un peu de gras le jour où ils partaient.
Oui,
et d'autre part, est-ce que le compte courant, il y avait quelque chose où ils pouvaient un peu négocier, un peu, parce que je trouve ça hallucinant, avec le nouvel entrant en disant bah, moi, j'ai 200 000 euros de compte courant. Il s'est passé 10 ans, il y a eu de l'inflation et. On s'est encore parlé séparément de l'inflation.
Du bloc,
on est bien d'accord, c'est chiffré, point.
Chiffrer, point, tout ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement la sortir d'un intérêt.
Voilà, c'est alors on va reparler de l'intérêt.
Plus cher son compte courant.
Voilà, ils pensaient qu'ils pouvaient vendre plus cher son compte courant.
De toute façon, ça sera assimilé à une partie du prix dissimulé.
Voilà.
Parce que sur
voilà,
le compte courant, il n'y a pas de fiscalité.
Si le compte courant est à 100, et on le paye 100. Si vous payez 110, c'est que vous avez 10 000 euros de cession.
C'est ce que l'expert comptable nous disait aussi. Oui, oui,
vous
disiez, mais vous créez de l'argent là en quelque sorte.
Pas de négo et de création d'argent. Alors par contre, oui, sur la rémunération, je ne sais pas si
on
rémunère. Plus tard.
Oui, la question vient un peu plus loin, il me semble.
Est-ce que c'est plus tard? Est-ce que je ne l'avais pas mis? J'ai peut-être pas, mais je mets juste pour le comptable.
Parce que si on décidait de rémunérer les comptes courants,
oui,
pour histoire de compenser un petit peu, voilà,
ben, ça pourrait être assez juste pour celui qui met beaucoup d'argent, par exemple, et qui dit, moi, je mets 200 000 en 2013, et en 2028, quand j'étais à 15 ans après, je vais récupérer 200 000. Au nominal, ce n'est pas tout à fait juste, parce qu'effectivement, 200 000 d'aujourd'hui ne vaudront pas, enfin, valent plus cher, si vous voulez, que 200 000 de 2028 quand il va sortir. Donc, il ne serait pas illégitime d'avoir une rémunération du compte courant qui soit, par exemple, calculée sur l'indice du coût de la vie, sur l'inflation, etc. Ça serait moralement juste, parce que, encore une fois, l'argent se dévalue, qu'on le veuille ou non. Même s'il se dévalue moins vite aujourd'hui qu'il y a 20 ans, il se dévalue quand même. Et celui qui met de l'argent, qu'il n'en gagne pas, c'est une chose, qu'il en perde, peut-être un peu contrariant.
Voilà, c'est ça qu'on essaie.
Mais n'avez pas déjà prévu une rémunération des comptes courants?
On envisage la question. Parce qu'en fait, il y a certains habitants européens qui le font, où ils se basent sur l'IRL à chaque fois, après, ce pour qui on a eu cet écho-là. Mais après, il y a toute une polémique, enfin une discussion, parce que certains nous disent que ce n'est pas imposable. Alors que c'est quand même
c'est quand même un intérêt, quoi.
C'est quand même des intérêts, parce que
s'ils sont petits.
Si nous, on fixe qu'il y a une rémunération à l'IRL.
Oui.
Et qu'en fait, ils récupèrent que sur l'IRL la partie non taxée, ils ne seront pas rémunérés finalement à l'IRL. Donc ça veut dire qu'il faut rémunérer plus haut pour retomber sur l'IRL. Ouais. Mais donc ça veut dire que le nouvel entrant, lui, il devra payer beaucoup, mettre beaucoup plus au pot.
Oui, mais en même temps, ça compense, si vous voulez, ce que le sortant a réellement mis.
Voilà, c'est de la monnaie constante quand même.
Oui,
mais par contre, non, ça augmente encore mon déficit, mais apparemment, ce n'est pas un problème.
Ce n'est pas de la monnaie constante, puisque c'est de la monnaie constante plus
position. Oui,
la vraie monnaie constante,
c'est pas de la monnaie
l'IRL,
constante,
mais l'IRL, il faudrait déduire effectivement le montant de l'imposition, et le montant de l'imposition n'est pas le même pour tout le monde. Il y en a qui vont être imposés sur une tranche marginale à 20%, d'autres sur une tranche à 20%, d'autres sur à 0. Donc, c'est là où c'est un peu compliqué à exprimer. Si vous prenez l'IRL plus 30%, effectivement, il y en a qui vont y gagner, et il y en a qui, par contre, ce sera neutre. Voilà. Alors, la moyenne serait de faire l'IRL plus 20%, ça correspond. Voilà.
Mais donc j'en profite pour placer ici donc la question dont on parlait dans la salle d'attente. Donc on a eu, enfin moi j'ai eu en tout cas, Marie apparemment n'a pas lu son courrier, mais on est dans la même banque, un courrier de notre banque nous signalant que maintenant les revenus financiers n'étaient plus taxés de la même façon.
Ah, ben là je ne sais pas
si c'est rentre possible. Dans l'impôt sur le revenu.
Ça serait logique, oui.
Ouais. Et plus forfaitaire, etc. Voilà.
Mais ça revient à ce que vous venez de dire, justement. Voilà. C'est du coup, il y a certains d'entre nous, suivant les revenus, qui seront imposés
qui
à
0, à 20,
à 30 ou à 40
sur
ton. Parce que par exemple, là, Martine et moi, donc, on est ceux qui vont apporter le plus en compte courant et on est au-delà même de la valeur de notre appartement. Et donc, ce qui est au-delà actuellement nous est rémunéré par la SCI à 4%. Et donc, on était parti sur 4% en disant qu'on serait imposé à 30% là-dessus, 34%. Donc finalement, vous dites que la plus grosse imposition va être moins, va être 20%.
Parce qu'en réalité, quand je parle d'impôt, il faut très tenir compte de deux choses. Il y a l'impôt sur le revenu, puis il y a les prélèvements sociaux qui arrivent derrière.
Ah oui, d'accord.
Donc grosso modo, vous allez être de l'ordre de 20%, plus 15,5 de prélèvements
d'accord,
sociaux.
D'accord, donc on revient
à
la
même chose. Vous allez finir à 35,5. Si vous mettez un tiers, c'est voilà, vous intégrez tout. 20%, d'accord, c'est uniquement l'impôt sur le revenu. Mais c'est vrai qu'il faut intégrer également les prélèvements sociaux qui sont élus. Un tiers, c'est bien. Voilà.
Ouais.
On est sûr que ça coûterait à personne et ceux qui sont peu imposables, ils y gagneront un peu plus d'argent. Tant mieux,
s'ils sont moins imposables.
Plus prélèvement
sociaux. Après, pour que les prélèvements sociaux, il faudrait faire le calcul à l'envers. C'est-à-dire que vous savez, c'est la somme moins 33% qui doit arriver au résultat de l'IRL. Quoi. Voilà. Ouais. Voilà, je laisse le professeur de mathématiques faire les calculs, c'est pas très compliqué. Ça.
Ok.
Je finis de noter ça.
L'avantage de l'IRL, c'est qu'il est lissé. Voilà. Et il est un peu moins brutal que l'indice du coût de la construction à partir duquel il est déterminé. L'indice du coût de la construction, il est des trimestres où il augmente, des trimestres où il baisse. Comme l'IRL, c'est l'indice du coût de la construction lissé sur 4 trimestres, c'est beaucoup moins sensible. Après, vous avez ça, vous avez l'indice de je ne sais pas le BT0, je ne sais plus comment ça s'appelle. L'indice de la consommation des ménages.
L'indice des coûts à la consommation, des prix à la consommation.
Prix à la consommation, voilà, des ménages hors tabac.
Hors tabac.
Hors tabac, parce que le ménage avec tabac. Ça, c'est un indice qui est plus près de l'inflation, par exemple. L'indice, parce que le seul défaut de l'IRL, c'est qu'il est calculé sur l'évolution de l'immobilier pur.
Bah oui.
Moins sur l'inflation.
Bah oui, mais je pense que ce serait plus pour refléter l'inflation.
Nous, notre.
Oui, pour les concurrents.
C'est pour ça que l'indice de le prix à la consommation des ménages est assez juste. En plus, c'est un indice mensuel, pour le coup. Mais vous pouvez le prendre de façon lissée également. Enfin, c'est difficile. Faites ce que vous voulez.
Oui, donc du coup, là, c'est à nouveau. C'est par exemple, on décide en AG. Bah, tiens, cette année, on va rémunérer les concurrents de temps. Puis l'année prochaine, on peut. Enfin, avec tel index. Et l'année prochaine, on peut très bien décider de prendre un auto ou de ne pas le faire.
Vous êtes compris.
Voilà.
D'accord.
Donc ben voilà, on peut le faire, sachant qu'on pourra quand même voir avec le comptable.
Et je pense qu'effectivement, le plus juste, c'est effectivement, selon moi, d'après votre philosophie, le prix des.
Les prix à la consommation.
Le prix à la consommation des ménages, je n'ai plus le nom exact de l'indice. Plus. Ben, déduire, il faut arriver à ce résultat-là, déduction en fait, de reprendre à peu près 33% si vous voulez, de taxation globale. Mais après, vous pouvez prendre l'ILC parce qu'il est peut-être plus simple à
c'est déterminer. Quoi, l'ILC ?
Indice de.
Non, oui, c'est ça.
Indice des loyers. Non, pas l'ILC, IRL. Indice de référence des loyers.
Oui,
c'est
l'indice
des loyers commerciaux, pardon.
Ça, c'est clair. Okay.
Alors, je devais nous avoir.
Moi, je comprends pas trop juste comment. Au niveau du déficit, enfin comment imaginons si j'ai 100 000 euros en compte courant et qu'on décide de les rémunérer à 2%, à la fin de l'année, la SCI me doit 2 000 euros, enfin je vais déclarer dans mes impôts 2 000 euros, mais la SCI ne va pas me les donner.
Et bien, le problème, c'est que comme vous n'avez pas de revenus,
il
va falloir quand même que collectivement, tout le monde les augmente, ça va augmenter votre compte courant.
Les mettre en compte courant, les 2 000 euros.
Elle vous les doit, donc ça va augmenter votre compte courant.
Après, soit elle te les donne, soit tu les laisses sur ton compte courant, c'est toi qui décides.
Ah, c'est ton compte courant qui augmente.
Voilà.
Oui. D'accord. Après, tu as le droit de demander qu'on te les verse.
Et là où vous avez raison, c'est qu'effectivement, ça va générer une imposition sur des sommes que vous n'avez pas reçues, effectivement. Mm-hmm. Par contre, vous augmentez les sommes qui vous seront dues à la sortie de l'opération.
Sur les modèles de convention de compte courant que je vous avais passé, il y a justement toutes ces clauses qui indiquent notamment que pour les années suivantes, les intérêts que vous avez perçus l'année N rentrent également dans la somme qui sera soumise à un intérêt supplémentaire. C'est-à-dire que l'année suivante, si on applique encore un intérêt, vous ne serez plus sur vos 100 000
sur les 104 000. Voilà. Par contre, si la SCI ne veut pas trop payer d'intérêt, elle va plutôt te les verser que te les mettre sur le compte courant.
Mais pour me les verser, d'où est-ce qu'elle peut les sortir pour me les verser?
Elle réduit ton compte courant et elle sort de sa trésorerie.
Mais elle n'a pas de trésorerie, là, ici.
Si elle a la trésorerie, mais elle n'en a pas.
Ah bah oui, mais aujourd'hui, non, mais si elle en avait.
C'est vrai, si elle en avait, mais il faudrait qu'elle ait des revenus pour en avoir. À terme, elle n'est pas censée en avoir non plus, même après les travaux.
Parce que le problème, c'est que si vous générez la trésorerie, toujours pareil, vous allez générer aussi une fiscalité liée à la trésorerie en question. Parce que la trésorerie, c'est du loyer qui va rentrer, c'est pas autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous générez effectivement de la trésorerie, on l'a évoqué plusieurs reprises, si vous générez de la du loyer, ça vous fait de la trésorerie, mais vous allez devoir verser dessus un impôt, une fiscalité au titre des revenus fonciers.
Non, aujourd'hui, la seule trésorerie qu'on a, c'est l'argent que les gens déposent sur notre compte en banque pour les mettre en compte courant.
Et ça veut dire qu'effectivement, quand vous avez la rémunération de votre compte courant va générer un impôt sur une somme que vous n'avez pas. On est bien d'accord. Mais par contre, ça vous assure une meilleure sortie.
Voilà, et donc c'est un message. Enfin, c'est, tu participes au titre de l'impôt tous les ans, mais au final, tu récupères plus d'argent.
Voilà, à la fin.
Sans imposition à ce moment-là, surtout.
Tout à fait.
On sera imposé chaque année.
Voilà, c'est un message.
Voilà, le véritable nom de l'indice, vous voyez, je l'ai affiché là-haut, c'est l'indice mensuel des prix à la consommation. Alors après, quand je regarde l'évolution, vous voyez, pour vous dire, sur 2011, il était plus 2%, plus 1,4 en 2010, plus 0 en 2009. Et si je regarde l'IRL en comparaison, vous voyez, je suis à plus 2, plus 1,45, plus 0. La différence est faible. Voilà. Alors, j'en étais à. Même question pour la valeur sur compte courant. Par exemple, est-il légitime d'appliquer au nouvel entrant de payer la valeur du compte courant, le mètre carré, réévaluer l'inflation? C'est un petit peu tout ce qu'on vient d'évoquer, ça.
Oui,
voilà.
Oui,
ça, c'est s'il y a une indexation.
Dans ce cas, doit-on imposer cette réévaluation? Moi, je pense que les comptes courants, pour que ce soit bien, ils doivent être traités tous de la même façon, vous voyez, sûr. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui dise moi, j'ai le droit de l'intérêt et moi pas. Mais effectivement, ça va nécessiter une discussion d'un dimanche pour savoir ce qu'on applique comme rémunération et quand et chaque année. Voilà.
Oui, puis après, l'histoire du nominal et du surplus, parce qu'aujourd'hui, vous êtes rémunéré à 4% sur le surplus. Je pense que ce serait l'autre partie. Oui. Est-ce que c'est l'intégralité du compte courant qu'on rémunère ou est-ce que c'est la partie?
Moi, je pense que ce sera assez juste. Ce n'est pas mes oignons, ouais. Je sais bien, mais parce qu'encore une fois, l'argent se dévalue. Hein, quand
oui.
Donc, il y a un moment où l'argent qu'on a mis, il ne s'agit pas forcément d'y gagner, mais il s'agit peut-être de ne pas en perdre.
Pas en perdre.
Voilà.
Mais après, on pourrait aussi dire qu'on en perd, mais pendant toute cette période-là, on ne paye pas le loyer. Enfin, on jouit d'un bien.
C'est exact.
Ok, oui, il y a cette histoire de jouissance, je pense, le D.
Alors ça, je n'ai pas de réponse à vous donner parce que ça n'est pas lié. À partir de quel moment tu as une statue, perdez la jouissance d'un appartement. La jouissance de l'appartement, encore une fois, c'est vous qui l'organisez dans le cadre de vos conventions, etc. Ça n'a rien à voir ni avec les statuts, ni avec la sortie du bien. C'est vous qui avez déterminé la jouissance, c'est vous qui avez organisé dans des conventions annexes, séparées, qui sont des contrats de mise à disposition, je ne sais quoi, voilà, comment s'organiser. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'être porteur de part, avec le fait d'être détenteur d'un compte courant. Vous avez pu, vous, peut-être, dans vos conventions, le lier, mais je n'ai pas la réponse parce que je ne connais pas exactement vos conventions.
Justement, on n'en a pas parlé.
Et tout ça pour vous dire qu'à la limite, j'en arrive à la conclusion, c'est qu'il faut effectivement le prévoir.
Voilà,
dans la convention d'occupation, je vous recommande de le faire, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas dans les statuts. Oui. Parce qu'encore une fois, l'occupation est tout à fait disjointe des statuts.
Ok, donc dès qu'on aura fini un appart, il faut qu'on fasse une convention d'occupation pour... Et puis après, on dit le jour où vous n'êtes plus associé, à telle date, vous perdez la jouissance.
Voilà.
À nous de déterminer dans notre...
Il faut effectivement déterminer entre vous. Mais encore une fois, c'est deux choses différentes, puisque la SCI, c'est la propriété du bien. La façon dont vous le gérez derrière, la façon dont vous le donnez en jouissance à l'autre personne, c'est autre chose.
Oui, on pourrait donner en jouissance à n'importe qui, finalement.
Même à quelqu'un qui n'est pas associé. C'est pas souhaitable, mais voilà, c'était...
Bien sûr.
Mais alors, imaginons donc des cas... On va voir un peu des cas tordus, enfin des cas qui se passeraient mal, ou quelqu'un donc n'est plus associé et puis reste dans l'immeuble malgré le contrat disait que quand tu n'es plus associé tu...
Ce qu'on peut voir dans ce genre de situation, mais c'est un peu désagréable à écrire, c'est ce qu'on appelle une astreinte, c'est-à-dire que la personne qui reste abusivement dans les lieux est redevable d'une somme par jour de retard au-delà.
D'accord.
Avec la difficulté qui est toujours la même qu'on a évoquée depuis le début, vous vous rappelez, c'est que ça va être compliqué face à un associé qui va prétendre qu'il relève du régime de la location des baux d'habitation, et qui va demander à se maintenir dans les lieux. Alors le fait qu'il ne verse pas de loyer va fragiliser sa position, on est bien d'accord. Mais face à quelqu'un de mauvaise foi, ça peut être un peu compliqué.
D'accord.
Alors le fait qu'il n'y ait pas de loyer, effectivement, fait que normalement, on ne devrait pas relever du statut des baux d'habitation, puisqu'il n'y a pas de contrepartie. Mais par contre, moi je serais vous, dans votre convention d'occupation, il faut prévoir une astreinte en disant, un mois après le départ, il n'est pas parti, il est redevable d'une année, je dis n'importe quoi, de 100 euros par jour de retard. Le principe d'une astreinte étant pas d'être une somme sympathique, étant d'être une somme dissuasive. Voilà. Mais attention, astreinte n'a d'intérêt que si on a du répondant en face. Alors le premier répondant que vous avez, c'est la possibilité pour la SCI, c'est le compte courant qu'a cette personne. Si la personne a un compte courant et qu'on lui dit que, une fois que si elle reste abusivement dans les lieux, son compte courant sera diminué de 100 euros par jour, elle sera peut-être motivée pour partir. Si elle n'a pas de compte courant, votre moyen de pression, il sera minime.
D'accord.
Mais je pense qu'il faut essayer de jouer là-dessus.
Ok.
Ouais, c'est parfait.
D'accord. Et autre cas, un petit peu de figure qui peut être peut-être un peu désagréable, imaginons un couple donc, qui soit à 50% ou pas dans leur compte courant, mais qui sont sous le même toit et qui se séparent, comment ça se passe?
Vous, la société a traité avec deux personnes, si vous voulez. Chacune des deux a le droit de rester, et c'est à eux de se débrouiller comme des grands pour savoir lequel des deux part et lequel des deux reste. C'est pas votre problème, quelque part. Et je pense qu'il faut pas que ça le soit. C'est pas
à vous de prendre parti.
Et c'est pas à vous de dire, nous on veut garder lui et pas elle ou l'inverse. Je pense qu'il faut surtout pas rentrer là-dedans. Il faut demander effectivement au couple qui se sépare de trouver entre eux une solution.
Donc, quand on rachète part, il y en a un qui est prioritaire, ils ont d'appréhension quand même.
Alors, il faut regarder les clauses d'agrément qui avaient été prévues.
Oui, je crois.
Mais sur le fond, effectivement. Alors, et puis après, ça dépend tout du régime matrimonial sur lequel ils sont mariés. Mais fondamentalement, je pense que vous, il faut surtout partir du principe que vous n'intervenez pas là-dedans et que c'est à eux. Et à la limite, ils peuvent très bien se séparer et vivre ensemble dans l'appartement. C'est pas votre problème.
Mais les couples mariés, les couples sont tous associés de la société. Vraiment, on n'a pas de situation.
Non, on pourrait en avoir des situations.
On pourrait en avoir.
Ouais.
Olivier.
Ouais. Et aussi Michael et Nadia ne sont pas mariés. Ils seront quand même tous les deux associés. Mais donc nous, dans notre contrat donc de jouissance, il faut que ça soit quand même un contrat qui lie les deux personnes du couple,
oui,
en quelque sorte.
Forcément.
Pour qu'après, ouais. Voilà, eux se débrouillent si jamais...
Donc la convention d'occupation, elle est avec, entre la SCI et deux personnes.
Les deux occupants, s'ils sont tous les deux associés, mais si vous avez un associé qui est en couple avec quelqu'un, pourquoi faire la convention avec cette personne?
C'est obligatoire.
Oui, parce qu'au final, vous aurez, vis-à-vis d'elle, vous n'aurez rien parce qu'elle n'aura pas de compte courant.
Non.
Elle
d'accord,
aura, vis-à-vis de la personne, vous n'aurez aucun moyen de pression.
Donc, elle est en quelque sorte, il faudrait plutôt imaginer.
Elle est limitée à cette qualité.
À celui qui est associé.
Voilà.
Voilà. Mais
si et l'autre est en quelque sorte invité par lui.
Voilà.
Voilà. Mais par contre, si dans le couple sont tous les deux associés, là, on fait une convention avec les deux.
Et en cas de séparation, on négocie la convention. Après, c'est à eux de régler ce problème, soit avec le juge dans la convention de divorce.
Mais si effectivement,
non, c'est vrai, je préfère, c'est plus juste, oui.
Si effectivement on fait une convention que avec la personne qui est associée et qu'elle amène un compagnon ou une compagne, donc il n'y a rien qui nous lie à cette deuxième personne, mais ça veut dire aussi que cette deuxième personne n'a pas respecté le règlement intérieur de le.
Mais ça, c'est autre chose.
C'est autre chose.
Après, c'est le problème de l'associé qui vit dans le logement.
Ouais.
C'est à lui de faire respecter peut-être par des
même,
contre lui que
vous
aurez une procédure.
À la limite,
enfin,
il ne serait pas inconcevable d'imposer dans la convention que le titulaire de la convention, donc l'associé titulaire de la convention, fasse accepter le règlement intérieur par
à toute personne qui
occupant qu'il invite dans son logement.
Et ça relève de sa responsabilité en cas de.
D'accord.
Voilà. Okay. Un invité ou quelqu'un qui vient avec toi, peu importe, quelqu'un qui vient une semaine aussi. Quoi. Enfin,
mais il est certain que vous. En tant que société, moi je parle, société ou association, vous n'avez de prise ou moyen de pression que sur celui qui est associé. Donc Marjorie a raison, je pense que le seul avec qui vous devez traiter la convention d'occupation, c'est l'associé, quitte à imposer dans la convention d'occupation une obligation par tout autre occupant d'adhérer et de respecter le règlement intérieur.
Imaginons la situation, un associé donc, vit avec une autre personne, vit pendant 10 ans, donc cette personne n'est pas associée de la société, n'a pas de compte courant. L'associé vient à décéder, vous souhaiteriez que cette personne puisse rester, vous aurez dans cette possibilité-là la possibilité de la faire rentrer dans la société. Ce qui n'empêche pas, même si pendant 10 ans elle n'a pas été associée, son entrée
est possible.
Pourrait être. Voilà.
Ok.
Ça me va. Alors après, on avait le cas de l'exclusion.
Pas de date de remboursement du compte courant, moi c'est dans les statuts, mais non, c'est que c'est les statuts, mais comment dire, les statuts n'organisent pas ceci normalement. Et vous aviez prévu, je crois, on en avait parlé, ça, il y avait une histoire de il y avait des délais de.
Ben en fait,
justement,
il y a,
pour l'exclusion.
Il y a des délais qui sont prévus dans les statuts pour le retrait et pour la cession, mais pas pour l'exclusion.
Oui, mais on avait mis, vous savez, je crois qu'on avait prévu pour l'exclusion, parce que le statut de la personne qui est exclue garde les droits de vote le temps qu'il n'est pas désintéressé de ses parts. Et on avait vu que pour régler toute l'affaire, il fallait que tout soit remboursé en même temps, je crois.
Parce qu'il fallait le sortir de la société, c'est
et oui,
ça,
il fallait.
Sinon, il gardait les droits de vote, on avait discuté de ça.
On avait, et je crois que c'est pour ça qu'on avait.
Non, mais ce que ça pose comme souci, c'est qu'il y a certains cas où les gens récupèrent leur compte courant. Si je m'en vais, je peux le récupérer au bout de une partie, au bout de 6 mois, 12 mois, 24 mois. Et que si c'est pas mentionné en cas d'exclusion, je pourrais être, si j'étais méchante, vouloir être exclue dans l'espoir de récupérer mon argent plus rapidement. Parce qu'en disant, vous voyez, il n'y a rien de mentionné, ça veut dire que vous me devez tout de suite l'argent.
Oui, mais alors, parce que la procédure d'exclusion, elle commence à partir du moment où il y a des faits qui peuvent être.
Oui, mais je pourrais intentionnellement faire
dire,
des choses pour être exclue.
Me dire dans 6 mois
si
je
j'étais
veux partir.
Vicieuse.
Oui, alors après, c'est
non, mais c'est vrai que les nouveaux posent cette question quand même. Les nouveaux candidats posent cette question parce qu'ils se disent bon, bah, nous, si on est exclu, ça peut marcher dans les deux sens. Quoi. Si on est exclu et que la société n'a aucun délai pour nous rembourser, nous, cet argent, on va en avoir besoin pour se reloger. Bien sûr qu'on n'essaye pas d'être exclu, mais voilà, si la société n'a aucune contrainte non plus vis-à-vis de nous. On est embêté, quoi. Du coup, c'est un frein pour nous pour rejoindre le projet parce qu'on se dit, ben, si un jour il leur prend nous exclure pour rien, on se retrouve à la rue et notre argent, on ne sait pas quand est-ce qu'on va le récupérer. Quoi.
On va le regarder.
Oui, ou nous dans le règlement intérieur, peut-être.
Non, mais donc, ça, on peut le mettre dans les statuts. Et ça, pour le coup, effectivement, il faudra peut-être qu'on le regarde comme il faut et qu'on aligne le régime de l'exclusion sur le sujet de la cession, par exemple.
Parce que c'est le couple de futurs entrants potentiels là, qui
nous ça déjà.
Vous avez le livre des statuts pour ça, si vous voulez, au moins un frais. Et oui, on peut
parce
le faire.
Voilà. quelles sont les conditions parce que moi, j'avais un vague souvenir qu'on avait dit que si ce n'était pas prévu dans les statuts, s'il n'y avait pas d'obligation pour la SCI, ben elle avait plus de temps.
Nous aussi, j'ai le souvenir qu'on avait parlé de ça et qu'effectivement, on avait dit comme ça, dans le cas de l'exclusion, il n'y a rien qui s'impose à la SCI, c'est elle qui le gère comme elle a envie presque.
Oui, mais ça veut dire que la personne, elle a fauté, mais du coup, elle se retrouve sans aucun droit non plus, quoi, même si elle a fauté. Donc c'est un peu rude.
C'est vrai. Mais je ne sais pas si ça n'avait pas été intentionnel à l'époque.
Peut-être, hein. Mais
Parce que ça lui. C'est quand même très coercitif.
Ça l'oblige à ne pas être exclu.
Ça l'oblige à être très sage. Ouais.
C'est qu'en fait, elle n'a aucun intérêt à être exclue.
Ouais, ouais. Bah, peut-être.
Il me semble que ça avait été un peu l'esprit.
Mais... Et bien, si c'est l'esprit, il faut qu'on en parle et qu'on voit si c'est acceptable pour le coup.
Parce que je sais que ça, vous en avez discuté longtemps.
Mais parce que la situation. Légalement, si on s'en tient au statut qu'on décide d'exclure quelqu'un, on a tout le temps qu'on veut pour lui rembourser son compte courant.
Ben oui.
Voilà.
Vu qu'il n'y a rien indiqué, c'est ça qui.
Oui, c'est
comme ça que marche la loi.
Oui.
D'accord. Ok. Donc oui, c'est très très coercitif.
Ben écoute, il faut qu'on en reparle en groupe pour voir si cette coercition nous convient.
Si on l'accepte tous.
Si on l'accepte ou pas. Et si on l'accepte pas, il faut qu'on modifie le statut.
Ouais.
Ok.
Le seul risque que vous avez sur cette coercition, c'est que quelqu'un, toujours pareil, aille au tribunal et dise que c'est quand même pas juste.
Bah
non
oui.
Seulement il est exclu, mais qu'en plus, voilà. Le tribunal considère qu'il serait juste que vous fassiez cela, malgré les statuts.
Bah oui.
Donc, quelque part, peut-être que le fait de le prévoir et de l'aligner sur le régime de cession, ou de prévoir un régime spécifique du paiement dans le cadre de.
Ouais, qu'il y a une limite. Quoi.
Voilà, dans une exclusion, voilà comment sera payé, c'est comme ça. Peut-être en pire que la session, après tout.
Oui, pour essayer de quand même d'avoir un petit aspect.
Ce sera peut-être mieux que de le laisser à l'appréciation d'un juge qui saisit.
Bah oui.
Voilà. Donc ça, on peut très bien faire une modification de statut pour ça.
Ok.
S'il faut.
Oui, je pense qu'on va le proposer.
Ah oui, oui, parce que c'est du même niveau que la modification du statut dont vous parliez tout à l'heure.
Si on fait une modification juste du texte, comme ça, sans changer les associés, je crois que c'est 19,20 €. C'est juste un dépôt de nouveau statut. Il n'y a pas de modification. Tout à l'heure, l'entrée des nouveaux associés, c'est une modification, c'est un coup plus élevé parce qu'on modifie le CABIS.
Chaque
fois qu'on modifie le CABIS,
on a sur le CABIS.
Mais il faudrait le grouper avec, c'est ça. Mais j'ai pas
soit on le groupe avec, soit on peut le faire avant, mais si on le fait avant, c'est un coup de 20 €, c'est juste déposer des nouveaux statuts.
Je pense
sans modification.
Et l'avantage, c'est qu'à la limite, on vous ferait l'acte de cession. Et vous, après, vous ne vous en avez rien qui pourrait vous servir de modèle à d'autres opérations sans passer forcément par nous.
Oui, pour le
pire. Comme ça, vous sauriez ce qu'il faut faire.
D'accord.
Marjorie, vous nous aviez gentiment donné un modèle de convention de compte courant. Vous auriez des modèles de convention d'occupation à l'occasion ?
Bah, d'occupation, non.
Non ? Bon, c'est pas grave. Bon, on cherchera.
Non, parce que ce qu'on a à nous, c'est des modèles de loyer, de bons d'occupation. De bons d'occupation. Ça, par contre, ça va peut-être se trouver sur Internet.
Oui, la jouissance, c'est quand même spécifique. Quoi. Ouais.
Ah, c'est très particulier, oui. Je suis très curieux d'ailleurs de voir parce que les bruits courent actuellement sur le fait que Duflo prépare une loi.
Oui, un statut.
Comme les vôtres, un statut qui s'orienterait vers un statut de société coopérative, si j'ai bien compris.
Ça.
Mais je suis assez, assez impatient que ça sorte pour voir effectivement ce qu'ils vont prévoir pour tout ça. Et surtout à quel degré d'organisation ils vont aller. Est-ce qu'ils vont uniquement prévoir un statut de société type qui serait bien ? Est-ce qu'ils vont aller sur des conventions d'occupation ? Est-ce qu'ils vont, je sais pas. Est-ce qu'ils vont prévoir que la société coopérative va louer après derrière ? Est-ce qu'il y aura une fiscalité particulière qui va être prévue pour ça ? Parce que finalement, on touche à des quantités de choses, qui fait que aujourd'hui, on est un peu obligé, nous, je ne vais pas dire de tricher, mais d'adapter des choses. Pour faire correspondre une philosophie générale à la situation qu'elle a. Mais la vraie solution consisterait à prévoir peut-être pour cette société-là une fiscalité spécifique, une imposition particulière, de façon à pouvoir prévoir ce qui serait plus normal, une convention d'occupation avec rémunération, sauf que si elle est taxée, ça pose problème. Quoi, voilà. Ou alors prévoir une taxation plus légère qui serait supportable, et du coup vous aurez une SCI ou une société, peu importe ce qu'elle serait, qui aurait des revenus, ce qui éviterait de vous faire venir. Vous vous rendrez moins malade pour le déficit de la société.
Ok. 7F, le blocage de 5 ans qu'on a nous-mêmes mis, mais on se dit après dans quelle mesure est-ce qu'à l'amiable c'est quand même dénonçable.
À l'amiable, c'est
presque
le monde. Dans le cas où la SCI serait liquidée avant la fin des travaux, elle potentiellement a une moins-value sur le bien, ou c'est le déficit
actuel. Problème de ce déficit.
Toujours.
À quelle hauteur chaque associé peut-il être sollicité pour combler le trou ? À la hauteur de ses parts, effectivement, de sa participation au capital.
Oui, mais comme l'asso est grandement majoritaire, elle a rien.
Voilà.
Donc derrière, on se retourne bien vers les gens qui sont au CA de l'asso, oui. Au collège.
Non, pas forcément.
Non. Donc,
le problème, c'est non,
au-delà de la journée,
là, essayez de trouver l'argent là où il est, c'est-à-dire que ça va être sur les comptes courants que vous allez ramasser.
Oui, okay. Mais si ça ne suffit pas.
Eh bien, on peut demander à chaque associé en proportion de sa participation, c'est tout.
Donc de ces 50 euros en l'occurrence aujourd'hui, enfin
oui,
au lieu de la
valorisation. Reste, c'est dans le cadre de l'association à laquelle vous adhérez que vous allez devoir participer, effectivement. Et en tant qu'associé de la l'association, comme on dit, vous allez peut-être devoir participer effectivement au financement pour que l'association ne soit pas déficitaire.
D'accord.
Mais donc ça peut être énorme.
Ça serait les poursuites. Oui.
Donc ça, c'est des poursuites sur nos biens personnels à chacun.
Bah, tu as essayé d'une société à responsabilité illimitée.
Ouais. Donc c'est ça. Hein.
C'est pas une SARL, c'est pas. Ouais. Voilà.
Donc, ceux qui ont encore des biens à côté, c'est eux vers qui on va plutôt se tourner.
Oui, alors en même temps, le risque, sincèrement, ça veut dire qu'aujourd'hui, cette situation-là se trouverait dans l'hypothèse où vous n'arriveriez pas, avec un prix de vente, à compenser le prix d'achat et le prix des travaux que vous avez mis dans la société. Si vous voulez.
Ben oui, mais c'est quand même possible. D'ici qu'on finisse les travaux, on a toujours ce danger-là. Si jamais on...
Le marché immobilier, pour l'instant, sur la zone, si c'est pas, oui. C'est assez en volume, mais c'est pas assez en valeur.
Mais à l'heure actuelle, enfin,
à l'heure actuelle, on a tout cassé.
Ouais, si on vendait maintenant.
Donc, on a, la valeur a perdu, le bien a perdu de sa valeur.
Si vous voulez que, oui, maintenant, on parle de 6 mois. Quoi,
on parle de 6 mois.
Quelle est la probabilité de...
Non, on espère que c'est
faible. Non, on espère pas, mais on ne sait jamais.
Enfin, normalement, il y a des éléments extérieurs.
Après, il y a un moment où, même si effectivement, vous entendez plus du tout, La simple, comment dire, l'intelligence économique de la personne peut vous dire, écoutez, on finit au moins l'opération, pour ne pas y perdre d'argent.
Quoi. Ouais, voilà,
ça me semble humainement réalisable.
Ouais, tout à fait. Et du coup, quel est le rang de priorité des créanciers en cas de liquidation? J'ai des vieux souvenirs de quand j'avais payé mes études.
Ben, c'est les créanciers hypothécaires. Non, les créanciers hypothécaires d'abord.
Donc les banques.
Ceux qui ont des garanties sur le bien,
mais
on
n'en a
pas.
Non, mais si jamais on prenait un crédit.
Un, c'est les créanciers hypothécaires.
Ok.
Deux, au niveau des dettes, l'État est toujours prioritaire. Mm. Et puis après, c'est les associés. Chaque créancier est dit chirographaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas de rang particulier.
Ah oui, d'accord. Donc entre nous et le plombier dont on n'a pas payé la facture, c'est le même rang.
Même rang.
Donc du coup, le tribunal, s'il y a un tribunal, c'est lui qui va décider.
Non, il va demander, qui sont les créanciers, etc.
Il va
prévoir, etc. Et les créanciers qui vont se déclarer seront effectivement payés. Voilà.
Donc, dans l'ordre, ils sont déclarés ou
non,
peu importe.
Ce qu'on appelle Omar le franc. Voilà. Hein. C'est-à-dire qu'en fonction, si jamais il y a 50 000 euros, une fois qu'on a vendu l'immeuble, il reste 50 000 euros dans la société, et ben, ça servira à payer tous les créanciers, y compris les comptes courants, y compris le plombier. Et s'il y a 50 000 de dettes et qu'il y a 50 000 d'actifs, chacun va toucher un tiers de sa créance.
D'accord, donc proportionnellement à...
D'accord, au prorata.
Et on a donc pour le moment deux particuliers qui nous prêtent, donc qui sont extérieurs à la SCI.
Qui prêtent à l'association.
Qui prêtent à l'association.
Ils seront traités comme les autres.
Ils seront traités comme les autres.
Mmh. Ils n'ont pas de priorité, sauf s'ils prennent une hypothèque. Mmh. Mais ce n'est pas le cas.
Non.
Mais tant qu'il n'y a pas d'hypothèque, effectivement. Voilà.
Ok, d'accord.
Ok, blablabla. Ça c'est bon. Donc, 9.
Même question qu'à plus-value. Dans quel ordre et à qui serait-elle affectée? Ce n'est pas tout à fait le mot exact, hein, parce que la plus-value, elle est collective pour la société. Mmh. Et donc, chacun la dégage au moment où il cède départ. Et tant que vous ne cédez pas, il n'y a pas de plus-value. Hein.
Oui, c'était.
Mais en cas de dissolution, par exemple, si au moment de la dissolution, on se rend compte qu'il y a ce qu'on appelle un boni de liquidation, là, ce boni de liquidation, c'est-à-dire que quand vous allez, on va le diviser entre chaque associé pareil, pour atteindre leur part, ce que vous avez reçu, ce que vous récupérez qui correspond à votre mise de départ, c'est sans fiscalité. Mm-hmm. Tout ce qui est en dessus sera réintégré dans l'impôt sur le revenu de chacun.
D'accord.
Mm-hmm. C'est assimilé à une distribution de résultats, en fait.
D'accord.
Augmentation du nombre de parts par associé physique. Si l'on choisit par exemple de doubler le nombre de parts de chacun, tout en gardant l'association majoritaire à plus de 50% quand on donne un statut, quelles sont les démarches à entreprendre? Quelles sont les conséquences éventuelles en cas de liquidation? Les démarches à entreprendre, c'est une cession. Hein. C'est-à-dire que l'association va céder à chacun une part de plus, enfin je vais augmenter. Puis on avait fait ça pour ça.
C'est
on a laissé l'association majoritaire. Voilà. Voilà, on peut faire une augmentation de capital, mais la solution la plus simple, c'est effectivement de faire céder par l'association.
Mais
Donc la même démarche que quand, si par exemple on souhaite le faire, on le fera quand on aura les nouveaux qui arrivent.
La différence, c'est que si on procède par le biais d'une cession par l'association, à certains associés ou à tous. C'est des sessions simples, comme celles qu'on a évoquées tout à l'heure.
Oui.
Si par contre on procède à une augmentation de capital,
ah,
là on va changer effectivement, on peut arriver, c'est-à-dire qu'on va augmenter la valeur des parts de chacun tout en maintenant au même niveau celle de l'association. D'accord ? Donc elle sera un peu moins réduite, la proportion de fonctionnement. Hein. Donc ça veut dire là par contre, effectivement, le coût sera un peu différent puisque augmentation de capital signifie effectivement cette fois une modification, une annonce dans les journaux. Donc il y a en plus une publication.
Ok.
Et quelles conséquences éventuelles en cas de liquidation ? Bah, pas plus que celles qu'on a évoquées là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, vous allez peut-être augmenter la somme à laquelle vous êtes. Enfin, comment dire ? Vous allez basculer du côté de la société. Si vous diminuez la part de l'association, vous augmentez celle des associés. Les associés seront plus responsables personnellement et l'association un peu moins. L'association, c'est les mêmes, c'est vous également.
Mais comme au final, l'association, c'est nous,
voilà.
En cas de problème, finalement, ce qu'on doit va être pareil.
Voilà. Et pour la plus-value, en revanche, vous bénéficierez plus de la plus-value immobilière prise par le client.
Bien sûr.
Aura qu'une part.
Voilà, tout à fait.
Mais imaginons un cas critique où il y aurait vraiment une situation de crise avec faillite, etc., enfin, dissolution. Et donc, les créanciers, le juge se retournent d'abord vers l'association, puisque c'est elle qui est majoritaire. Tout le monde au même niveau, mais en fonction de son pourcentage. Oui. Donc, elle demande à l'association, mais qui n'a aucun fonds.
Oui.
Qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura un procès, enfin, il y aura une. Parce que l'association sera mise en liquidation aussi, puisqu'elle sera en faillite.
Tout à fait. Et on va demander à chacun des associés de combler le passif.
Voilà.
Parce que par contre.
Mais on demande comment ? C'est un procès, enfin, je suppose qu'il doit y avoir des situations où les créanciers récupèrent jamais leur bille parce que l'association, elle est, je ne veux pas dire fantôme, mais.
Si, ça arrive. Hein. C'est sur les sociétés commerciales, toutes les fois que vous avez une SARL, justement dans la société limitée aux apports, le créancier, il a accès au propre derrière.
Oui.
Et
ça arrive. Mais avec une association, est-ce que ça ne peut pas aussi se produire, ça ? Parce que. Les associés d'association ne peuvent pas dire oui, mais attendez, moi je ne suis pas responsable.
C'est les autres.
Ils peuvent essayer, mais c'est plus compliqué parce qu'ils sont à titre personnel. Et leur responsabilité n'est pas limitée au montant de leur apport, si vous voulez. Donc, il suffit qu'ils soient un peu solvables sur leur compte personnel, sur un bien immobilier qu'ils aient par ailleurs, etc.
D'accord. Mais donc là, on risque de les poursuivre, même. C'est-à-dire, celui qui aura des biens personnels, on va le poursuivre. Enfin, on va prendre sur ses biens. Alors que celui qui n'en a pas, on ne va pas le poursuivre.
Ah, oui. Ah, faut
faire
attention.
En SCI,
il n'y a pas de solidarité. Hein.
Non, non, non.
Oui, mais ça, c'est au sein
la
de l'association.
La solidarité, on la mettrait dans le cadre de l'association.
Dans l'association, là, oui.
Dans la SCI, si vous avez 1% du capital, vous êtenu qu'à 1% du passif.
Ouais. Donc, ça,
mais en tant que membre de l'association, effectivement, on recrée quelque part une solidarité.
Responsabilité limitée, donc voilà.
Okay. Et alors, cette responsabilité, elle s'applique à tous les membres de l'association ?
Oui.
Ou est-ce qu'elle s'applique uniquement aux membres du collège ?
Non, les membres de l'association.
D'accord. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui nous soutient, juste qui trouve sympathique notre projet et qui nous qui paye sa cotisation de 20 euros par an, il est passible de nos dettes.
Tout à fait. Juridiquement, oui. Je ne vous dis pas qu'un jugement ne considérera pas que il sera plus logique, mais juridiquement, oui, il est tenu.
D'accord. Oui, ça j'ai pas capté.
Après, il ne faut pas non plus.
Non,
je pense, parce que
on essaie de voir le pire pour pouvoir comprendre.
Mais ce que je veux dire, c'est que le pire, autant le pire sur une activité commerciale, il faut systématiquement l'envisager, autant vous, je pense qu'une fois que vous l'avez envisagé, il faut l'écarter. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que l'essentiel d'une activité de la SCI, c'est quand même l'immeuble qu'elle détient. Si vous voulez. C'est que là, on serait dans une situation à la fois où vous vendriez votre immeuble, vraiment avec beaucoup de pertes. Vous comprenez ce qui. Et quand même rarement le cas, parce qu'encore une fois, s'il y avait à peu près une seule chose qu'on tente ces dernières années, c'est que l'immobilier ne se dégrade pas ou ne se dévalue pas. À moins que vous ne l'entreteniez pas, effectivement. Voilà. Mais sous cette réserve-là, je pense qu'une fois que vous avez évoqué la situation, vous allez dire, voilà, ça ne serait pas rigolo, mais c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. Puisqu'effectivement, normalement, le prix de vente de l'immeuble devrait suffire à payer l'essentiel du passif, si vous voulez, ou en tout cas la plus grande partie, de façon à n'en laisser qu'une faible partie qui serait répartie entre tout le monde. Et je serais quand même surpris que chacun, après, soit tenu de payer 100 000 euros. Ça serait un peu étonnant.
D'accord. Mais disons qu'on a quand même les questions de. Voilà, de
mais la question, la question qui, théorique. Oui.
Voilà, que les travaux seront finis, le bien aura, je pense, quand même un attrait important, parce qu'il sera divisé en appartements. Donc après, vous pourriez même vendre par appartement et plus
même
dans
son entier. Faire une opération de promotion, de valorisation foncière, qui est votre propre philosophie. Mais qui, effectivement, quelque part, fait que normalement.
Qui pourrait le devenir.
Vous ne devriez pas y perdre d'argent.
Oui.
Oui, en cas de faillite, ça pourrait être
on peut toujours
par
vendre un bout. Ouais. Oui,
voilà, il y a toujours besoin de mettre une copropriété en place. Ouais.
Et peut-être que les futures organisations juridiques prévues, avec les cités coopératives, nous donneront des solutions autres que celles de l'association, qui pour l'instant est la seule qu'on a trouvée pour éviter cette spéculation, vous vous rappelez. Et les autres groupes, un peu comme vous qu'on a rencontrés, d'ailleurs, ne sont pas forcément sur cette philosophie-là, ils sont sur la question de l'association. Et pour l'instant, il n'y a que vous qui avez fait ce choix, qui, à mon avis, est à peu près le plus juste, mais les autres n'ont pas tout à fait forcément cette mentalité-là.
Ok,
génial.
L'incapacité de la SCI à rembourser dans les délais statutaires le compte courant d'un associé sortant, dans l'hypothèse où pas de remplaçant trouvé ou remplaçant important ou moins numéré, a-t-il forcément pour conséquence la liquidation ? Ben, si, elle peut être demandée, effectivement. C'est-à-dire que si l'associé qui n'arrive pas à obtenir son compte courant va au tribunal, le fait que l'associé soit dans l'incapacité de faire face à son passif peut entraîner effectivement une mise en liquidation.
D'accord. Donc ça veut dire que nous, la conséquence, c'est qu'il faut qu'on ait toujours suffisamment de numéraires.
Ou que vous ayez une possibilité de refinancement.
Voilà, de refinancement, parce qu'on aura toujours ces problèmes-là quand quelqu'un part, que potentiellement celui qui arrive n'apporte pas la somme. Donc on a toujours une espèce de besoin en fonds de roulement, de compte
oui, fonds d'associés. Oui, ou besoin de trouver des fonds ailleurs, chez d'une autre sorte, ou de remettre de l'argent par ceux qui restent, ou de trouver un sympathique mécène extérieur qui donne de l'argent.
Quoi. Il fait un emprunt relais, quoi.
Oui, si l'associé sortant en justice. Ouais, parce que du coup, si on a deux d'un coup qui partent, là, on est... Ça peut toujours arriver, les sans être méchants, etc. Mais les circonstances de la vie, il peut y avoir, s'il y a deux foyers d'un coup qui partent, on est avec un trou énorme.
Et plus le nombre d'associés augmente, plus le risque augmente.
De rotation
aussi,
augmente, oui, tout à fait.
Mais pareil, après.
Le remboursement, il était à quel délai du coup jusqu'à 2 ans donc.
Jusqu'à 2 ans, oui. Une partie sur 6 mois et jusqu'à 2 ans.
Voilà, c'est ça. La marge
est
assez.
Ok.
Les questions plutôt pour l'expert comptable.
Ouais, je ne sais pas si vous les avez survolés, c'est peut-être pas nous, on va peut-être pas vous embêter.
Il y en avait une grande partie qui recoupait les mêmes que celles qu'on a.
Oui, il y en
avait
des extraits
pour que. Et je crois que
la 5,
vous l'avez faite à l'intention.
Parce que moi, il me semblait avoir vu un point qu'on n'a pas évoqué.
Je crois que la 5, on ne l'a pas faite, je crois.
Non, mais vous l'avez un petit peu évoqué quand même.
Oui, mais je voulais quand même parler
de l'histoire du décès, parce qu'on peut
dire les nouveaux. Marjorie, effectivement, regardez, qu'est-ce qui avait été prévu justement comme
décès ? Merci, Marjorie. Tout associé de toute cession de part sociale à un tiers, en ce compris toute cession par voie de succession, liquidation de communauté de biens entre époux, et toute cession soit à un conjoint, un ascendant ou un descendant associé soumise à l'agrément préalable de la cotisation.
On avait prévu un agrément systématique. C'est-à-dire qu'en clair, une succession ne peut pas générer pour vous l'entrée non désirée d'un associé.
Finalement, la seule cession qui n'est pas soumise à un agrément, ce serait un associé qui vend à un autre associé.
Oui, entre vous, qui est déjà agréé. C'est le seul cas
où on n'a pas d'agrément.
Et donc, pour bien dissocier les choses là, par rapport donc, à la jouissance, de toute façon, le fait d'être, par exemple, imaginons, voilà, quelqu'un décède, nous, on a quand même notre clause d'agrément, mais on n'est pas tenu de loger ses descendants.
Alors, il y a une règle, c'est pareil, normalement, le conjoint survivant, dans le droit de la famille, a un droit au maintien d'un lieu pendant 1 an. C'est ça. Donc le conjoint qui survit doit être mais par contre ce droit au maintien dans les lieux qui lui est accordé par le code civil, pas seulement. Pas seulement, il peut rester dans les lieux, mais par contre en s'acquittant des charges qui sont liées à sa présence, si vous voulez, donc c'est un loyer à prévoir, c'est machin, il en est tenu de respecter le reste. Mais effectivement, il faut partir du principe que vous ne pourriez pas, ça c'est pas forcément votre souhait, mais vous ne pourriez pas forcément exclure un conjoint survivant marié. D'un couple marié, vous ne pourriez pas lui demander de partir avant 1 an. Ça, quel que soit ce qu'on écrit, c'est la loi. Par contre, pour le reste, il faut distinguer 3 niveaux de réflexion. Vous avez le niveau occupation pure, réglé par votre convention d'occupation, convention de jouissance, peu importe comment on l'appelle, qui est une chose. Vous avez le fait de détenir les parts, qui en est une deuxième, et vous avez la valeur de ces parts, à qui appartient-elle. Si je vous dis ça, c'est pour la communauté toujours. Dans le cas qui sera un peu curieux, où un couple marié sous les régimes de la communauté, vous n'auriez que l'un des deux qui serait associé. D'accord ? On a 2 niveaux de réflexion. Vous avez la propriété des parts appartient à la communauté. D'accord ? Mais par contre, le titulaire des parts n'est que l'associé. Monsieur, porteur des parts, décède. Sa femme a droit à la moitié de la valeur. Elle n'est pas pour autant associée. D'accord ? Elle ne pourrait pas devenir associée sans votre accord, sans votre agrément. Par contre, elle a droit à la valeur des parts qui lui seront payées par le nouvel entrant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que même si elle n'est pas associée, c'est bien elle qui encaisse l'argent. Quand je dis elle et les enfants éventuels, hein, la succession, qui encaisse l'argent. Mais vous avez par contre, elle ne peut pas rentrer sans votre agrément. C'est deux choses distinctes. Il y a le porteur départ qui est l'associé. Là, pour l'instant, vous avez fait en sorte que tous ceux qui sont en couple, mariés sur la communauté, soient également associés tous les deux, ce qui est quand même de très loin la meilleure solution, on est bien d'accord. Mais vous pourriez avoir l'hypothèse de quelqu'un qui, par exemple, est marié sous la communauté, il n'y a que lui qui rentre. Mmh. Pour quelle raison? Mais ça pourrait arriver.
Oui.
Mais les fonds qu'il va mettre dans la société sont des fonds communs. C'est par dépendre de la communauté existant avec son épouse, mais il n'y a que lui qui est porteur des parts. Donc son épouse n'aura pas le droit de devenir porteuse de parts systématiquement. Par contre, elle a droit à une partie du prix, elle et la succession. D'accord. Alors, dans l'hypothèse d'un couple que vous associez, que se passe-t-il en cas de décès de l'un d'entre eux? Donc, pas marié, et ben, et normalement, la personne qui n'est pas titulaire d'un droit d'occupation réel parce qu'elle n'est pas associée, et ben, vous allez prévoir dans votre convention d'occupation que l'invité, s'il est invité, ben, il part dans le même délai que alors, dans le mois qui suit. Après, il y a des problèmes humains qui peuvent se poser.
Bien sûr, mais c'est qu'est-ce qu'on met dans la convention,
voilà.
Voilà.
Paxé,
est-ce que vous pouvez mettre dans la convention, est-ce que vous appliquerez voilà.
Non, paxé, c'est pareil, c'est comme pas marié, hein, il n'est pas titulaire de droit. Marié, par contre, sous différents régimes. Si on est en séparation, c'est comme s'ils n'étaient pas mariés. Alors, sauf cette particularité du conjoint survivant qui peut demander un maintien, un droit au logement dans l'année qui suit. Voilà.
D'accord. Mais aussi dans nos contrats de jouissance qui sont totalement indépendants finalement du fait qu'ils soient associés ou pas, est-ce qu'il faut qu'on précise ou est-ce que c'est sous-entendu que quelqu'un qui a une jouissance d'un appartement, s'il décède, et imaginons par exemple moi je décède, j'ai pas de descendance, c'est mes frères et sœurs qui héritent en fait de mes ayants droit, mais ils vont pas hériter de ma jouissance.
Non.
Ils hériteront de vos parts.
Ils hériteront de vos parts.
Voilà.
Par
et
contre,
donc,
je pense
ils n'auront aucun droit. Il ne faut pas qu'on mette dans le texte que cette jouissance est individuelle. Et, enfin, il faut qu'on le mette dans notre texte.
Mettez-le quand même que c'est un droit de jouissance qui n'est pas transmissible, si vous voulez. Par contre, attention, il faut distinguer deux situations. Vous avez effectivement les héritiers qui ne sont pas là. Vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui est divorcé, qui ne vit pas avec son ex-femme ni avec ses enfants, qui vient habiter chez vous, pourquoi pas. Et ce n'est pas pour autant que ses enfants de son premier mariage vont avoir le droit d'occuper le bien à son décès. D'accord. Par contre, il faut distinguer cette situation-là de celle du type de celui qui vit dans les lieux avec un certain nombre de personnes. Ces personnes-là, même si après le décès du titulaire n'ont plus aucun droit à occuper les biens, il faut peut-être leur laisser un délai normal pour quitter les lieux. Voilà, parce que même s'ils n'ont pas un droit de jouissance, Mais oui, c'est bête, mais il faut peut-être l'envisager parce que ça paraît bête comme ça, mais dire qu'effectivement, il y a un délai quand même raisonnable, humainement admissible, pour qu'ils puissent libérer effectivement les lieux. Quoi.
D'accord, oui. Donc ça, il faudra qu'on prévoie tout ça dans nos
contrats de jouissance. Quand même,
dans nos conventions d'occupation.
Voilà.
Et sachant que, effectivement, autant on peut demander à un conjoint, à un compagnon de signer la fameuse convention d'occupation en tant qu'invité, autant des enfants mineurs, ça ne sert à rien de la faire signer parce qu'ils n'ont pas la capacité juridique. Donc ces enfants-là qui seront dans ce logement-là, par contre, ils n'y resteront pas normalement puisque leur auteur sera décédé, donc ils vont rejoindre un autre parent qui vivra ailleurs. C'est au moins le principe, hein. Mais il faut quand même voir comment ça va se passer. Quoi.
Et les enfants majeurs, parce qu'on a le cas.
Eh ben, moi, je leur ferai signer la convention d'occupation. Je serais partisan du fait de dire effectivement tous les gens majeurs qui occupent le logement doivent signer la convention de jouissance. Autant pour en prévoir qu'effectivement ils s'engagent à en respecter les conditions, les modalités et les modalités de départ éventuellement.
D'accord.
Ça me semblerait.
Il sera fier. Il vient d'avoir 18 ans.
Mais moi je trouve que c'est pas plus mal parce que quelque part ça laisse aussi au projet. Même si c'est pas le projet à un projet à lui, c'est quelque part ça le rend philosophiquement lié au
ce qui se passe dans le monde. C'est un grand philosophe donc ça va lui plaire.
Voilà. Donc il devrait y aller.
On avait une question supplémentaire qu'on ne vous avait pas envoyée, mais c'est vraiment votre avis, parce que pas forcément en tant que notaire, mais peut-être sur vos expériences que vous avez vues autour de vous. En fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a une de nos associées qui, un mois après la vente, nous a annoncé qu'elle partait, qui est celle qui avait, qu'elle allait habiter, pas à Saint-Germain, du coup, parce que sa fille, ses enfants, des enfants, bientôt des enfants, elle va être grand-mère, elle voudrait être ses enfants à Paris. Donc, et comme c'est elle qui a mis le plus d'argent sur le projet, Martine, en gros, on s'est mis d'accord dans sa convention de compte courant que sur les 350 000 qu'elle nous avait versés à la vente, on lui en rendait 200 000 d'ici juin 2013. j'ai déjà vendu 50 000 là, mais on a encore un petit trou de 150 000 à trouver.
Et donc, en fait, elle cherche, elle actuellement à Paris.
Voilà, donc elle a besoin de cet argent pour se loger à Paris. Quoi. Mm-hmm. Elle nous en laisse une partie, ce qui est déjà bien gentil. Et donc, on est en train de regarder pour trouver d'autres financeurs, dont éventuellement des banques si on n'a rien d'autre, même si ça ne nous plaît pas. Et donc, on a toujours le souci, et aussi pour les nouveaux également, de se dire un nouvel associé peut. Est-ce qu'il peut prendre un prêt bancaire pour le financement d'un compte courant,
quoi? Oui, le problème du prêt bancaire de l'associé va être le même que vous si vous sollicitez un prêt de la banque, c'est la garantie à donner à la banque.
Oui, voilà.
Alors, là, et puis vous rappelez que la discussion avec la banque, c'était surtout focalisé sur le fait qu'ils aimeraient bien que l'association soit majoritaire.
Voilà, moi j'étais pas là à l'époque, mais.
Une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui, je pense que votre situation est différente. Parce que l'association a quand même un avantage, c'est qu'elle est propriétaire d'un bien. Elle est propriétaire d'un bien, et quelque part, un créancier, un banquier, qui aujourd'hui demanderait.